une société qui en vient à imposer des sanctions, à congédier des individus qui font des énoncés scientifiques, qui les appuient avec des preuves,
exact.
On est en train de tuer la science. Mais vous regardez au Québec dans plein, sur plein d'autres sujets, que ce soit par exemple la question de la politique étrangère russe, de la guerre en Ukraine. Depuis 2 ans, y a-t-il réellement eu débat au Québec sur les raisons de cette guerre-là, puis ce qui va arriver dans l'avenir? Parce qu'on s'entend.
Non, puis écoute, juste écouter, excuse-moi, je te coupe, mais juste écouter un discours dissident était considéré comme un crime pratiquement.
Oui,
là.
Vous devez réaliser un petit peu que la démocratie, là, beaucoup de gens au Canada vont leur dire, c'est quoi une démocratie? C'est quoi un régime démocratique? Ouais. On dit, ben, nous, contrairement à la Russie, par exemple, nos élections sont libres et compétitives. OK, bon, vous avez des élections libres et compétitives, d'accord, ce qui n'est clairement pas le cas en Russie ou en Chine.
Okay,
j'en conviens, d'accord. Ouais. Mais votre définition de la démocratie, c'est ça, c'est l'élection. C'est une conception
c'est pas après
très...
comment ça s'applique dans le quotidien.
Donc, c'est une conception très procédurale.
Ouais,
l'acte
ouais.
Là, de faire la file, prendre son petit bulletin de vote, faire une croix, mettre ça dans
son
l'autre.
Devoir de
pour
citoyen.
Vous, c'est ça la démocratie. Mais ça... qu'est-ce qui se passe entre les scrutins?
Ben,
vous avez
là,
des
démocratie.
Gens qui sont censurés. Vous...
Les minorités ne sont pas écoutées.
Non, automatiquement qualifiées là, des pires épithètes possibles.
Exact.
On leur fait perdre leur emploi, on les censure, on leur donne une réputation de merde.
Ouais.
C'est ça la démocratie?
Jean-François Caron est un des rares intellectuels du Québec qui a osé se prononcer de façon critique par rapport à la COVID, par rapport aux années qu'on a vécues, ce qu'il nomme un régime autoritaire. Il vient de sortir un livre par rapport à ça. D'ailleurs, ce n'est pas son premier, il en a sorti beaucoup. Je le trouve très prolifique, très impressionné d'ailleurs. Il est venu me rencontrer pour qu'on fasse un retour sur les politiques qu'on a vécues dans les dernières années, la culture de censure, le cancel culture, dont il a été victime lui-même. On a parlé de l'Ukraine parce qu'il est professeur au Kazakhstan. Finalement, on a survolé plein de sujets, une conversation super intéressante. À vous de l'écouter. Bonjour Jean-François Caron.
Bonjour.
Merci d'être là avec moi. Je suis contente de t'avoir en personne, parce que d'habitude, t'es loin.
C'est loin,
t'habites un petit peu loin. Je vais te présenter, selon ta quatrième de couverture, pour ceux qui ne te connaissent pas, détenteur d'un doctorat en sciences politiques de l'Université Laval. Tu enseignes la théorie politique à l'Université Nazarbayev au Kazakhstan.
C'est ça.
Et tu es en visite pour quelle occasion en ce moment au Québec?
Quelques jours, j'ai le lancement de mon dernier livre. En particulier.
Attends, le dernier, c'est lui.
Oui, voir ma famille aussi, que j'ai pas vraiment eu l'occasion de voir au cours des 4-5 dernières années à cause de la pandémie.
Mm-hmm.
Donc, j'en profite là, quelques jours pour rendre visite à tout le monde.
Bon, profite, t'es chanceux, il fait beau. Et écoute, on a plein de choses qu'on va discuter aujourd'hui, mais tout d'abord, on était juste en train de parler de liberté académique. Je trouve ça intéressant qu'on continue là, parce que maintenant, toi, t'es prof au Kazakhstan. On faisait les parallèles avec ce qui se passe ici, de la liberté académique. J'aimerais ça que tu nous parles, toi, maintenant, ça fait quoi, 8 ans que t'es au...
9 ans.
9 ans. Ouais. Est-ce que tu considères que t'as plus de liberté académique où tu habites présentement qu'il y a les profs ici? C'est quoi la situation, selon toi, au Canada, au Québec?
Ouais, ça peut paraître paradoxal parce que j'enseigne, j'habite dans une société qui est cataloguée comme étant non démocratique. Alors que moi, dans les faits, j'affirme, je maintiens que j'ai davantage de liberté académique dans cette université-là que j'en aurais si j'enseignais à l'Université Laval ou à l'Université d'Ottawa. Parce que des cas de cancellation, des cas de congédiement de professeurs, comme on en a vu récemment au Québec, ça n'existe pas chez nous.
Non.
Nous, dans notre université, et c'est le fondement même de l'université, on a une charte qui nous garantit la liberté académique. Donc, du gouvernement, du ministère de l'Éducation, ce qui nous permet de créer, d'enseigner les cours de notre choix, qui nous permet de les enseigner de la façon dont on veut les enseigner.
Mm-hmm.
Et il n'y a pas de sujet tabou.
Okay.
La seule restriction, c'est si on est à critiquer une politique publique du gouvernement, c'est permis de le faire, mais il faut appuyer ça avec des preuves.
Okay.
Avec des données, par exemple.
Mm-hmm.
Donc, si on veut, par exemple, dire la politique du gouvernement concernant la lutte contre la pauvreté est un échec, on a le droit de le dire, est un échec et voici pourquoi.
Ouais.
On donne les données, ça rentre dans la liberté académique, on peut le faire.
Je comprends.
Et puis, j'ai des collègues qui enseignent des sujets très sensibles. Moi, j'ai une collègue, par exemple, qui enseigne des questions de genre, des relations entre les hommes et les femmes.
Okay.
Puis, elle n'a jamais eu de sanctions. Son visa de travail est renouvelé à chaque année, comme le mien. Et puis, il n'y a jamais
personne... Est-ce qu'elle vient d'ici aussi?
C'est une professeure du Québec aussi. Okay. Elle vient de Drummondville.
Okay.
Ça fait 8 ans qu'elle est là. Moi, ça fait 9 ans. Puis nos visas de travail sont renouvelés sans problème à chaque année. Tout va bien.
Ouais.
Donc, lorsque je vois des situations comme celle de Patrick Provost ou d'autres profs dans d'autres universités au Canada qui se font congédier ou qui se font canceller lorsqu'ils veulent donner une conférence,
aussi.
Nous, ça ne nous arrive pas. Parce que si on faisait une chose comme celle-là, on pourrait être envoyé, on pourrait être congédié parce que cette action-là ira à l'encontre de la charte qui garantit la liberté académique.
Ici aussi, on a des chartes qui protègent ça fait partie de... On en parlait juste avant de commencer, mais là-bas, la charte est respectée. Ici, la loi ne l'est pas. C'est ça la différence, parce qu'on aurait pensé qu'il y avait un principe qui faisait en sorte que les profs ont une liberté académique. Puis c'est ce que professeur Patrick Provost défend depuis le début, mais malgré tout, il a quand même été congédié tout récemment dans une espèce de finale. Ça durait depuis 3 ans, je pense. Donc, est-ce que tu as été surpris de voir le congédiement de Patrick Provost?
Surpris, oui, dans un sens, parce que c'est vraiment une première.
Ouais, c'est
ça. On s'attend pas à ça.
Première au Québec, en tout cas.
Oui, des sanctions, même les sanctions, c'était problématique,
oui.
Déjà à la base. Parce que le principe de la liberté...
Suspendu sans solde.
Oui, c'est ça. Mais le principe de la liberté académique, si... La profession d'universitaire, c'est un peu une profession un peu médiévale. Donc, on est très libre... C'est une profession d'artisan. On est très libre de faire ce qu'on veut, d'enseigner les sujets de notre choix, de faire des recherches sur les sujets de notre choix. Et on ne doit pas subir la moindre pression de la part de la communauté politique ou de la société. Et ça, c'est une condition même pour l'avancement de la science.
Ouais.
Parce que la science, quand on regarde les grandes évolutions scientifiques dans le passé, c'est des gens qui ont critiqué des consensus. Et on s'est rendu compte que ces gens-là, ben, les consensus qu'ils critiquaient, en réalité, le consensus reposait sur du vent, sur des faussetés.
Mm-hmm.
Mais si on veut pouvoir garantir cette possibilité-là, qu'il y a des avancements scientifiques, on doit permettre à des gens de pouvoir s'exprimer librement.
Mm-hmm.
Et c'est probablement la seule profession où les gens qui l'exercent ont cette capacité-là.
Mm-hmm.
Si vous êtes un fonctionnaire, par exemple, ben, vous ne pouvez pas critiquer votre employeur. C'est dans votre description de tâche.
Ouais.
Donc, un fonctionnaire du gouvernement du Canada, du Québec, n'a pas le droit publiquement de critiquer son employeur. Donc, c'est une limitation à la liberté d'expression,
ouais.
Mais qui repose sur une acceptation volontaire. Donc, si vous voulez travailler pour le gouvernement, ben, vous allez devoir accepter cette contrepartie-là.
Mm-hmm.
Dans l'enseignement universitaire, il n'y a pas cette restriction-là. Et c'est une condition fondamentale pour l'avancement de la science. Donc, une société qui en vient à imposer des sanctions, à congédier des individus qui font des énoncés scientifiques, qui les appuient avec des preuves, ben, on est en train de tuer la science.
Parce qu'on n'était pas dans l'opinion dans le cas de Patrick Provost.
Non.
On était vraiment...
C'est son domaine d'études.
C'est ça. Il savait de quoi il parlait, puis il apportait vraiment la substance pour étayer ses propos.
Peut-être qu'au final, il y a tort.
Peut-être.
Mais qu'on lui donne au moins la possibilité de pouvoir s'exprimer.
Exact.
Et dans une dynamique scientifique, ce à quoi on se serait attendu, c'est des gens lui aurait critiqué ses idées et il y aurait eu débat.
Exact.
Or, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu débat.
Il y a eu censure.
Et puis ça, c'est un cas très particulier, mais vous regardez au Québec dans plein d'autres sujets, que ce soit par exemple la question de la politique étrangère russe, de la guerre en Ukraine. Depuis 2 ans, y a-t-il réellement eu débat au Québec sur les raisons de cette guerre-là puis ce qui va arriver dans l'avenir? Parce qu'on s'entend.
Non, puis écouter un discours dissident était considéré comme un crime pratiquement.
Oui,
là.
Oui.
Tu l'as vécu.
Je l'ai vécu. Donc, on est dans une dynamique ici, là. Les gens, les trolls qui vont regarder le début de l'entrevue vont se dire « Ah, vous avez l'adepte des théories de la conspiration qui reçoit le pro-russe Jean-François Caron. »
Un adorateur de Vladimir Poutine.
Voilà. Donc, à quoi bon écouter le reste de l'entrevue?
Ça vaut pas la peine.
Parce que à partir de maintenant, tout ce qui va être dit jusqu'à la fin, ça va être que de la propagande et des fake news.
Exactement.
Ben, c'est l'attitude qu'il y a au Québec.
Oui, tout à fait.
Malheureusement, puis ça, c'est pas une attitude scientifique.
Non, mais c'est toxique aussi dans une démocratie.
Ben oui, c'est la démocratie, c'est le débat, c'est la discussion, et puis surtout aussi dans le monde universitaire, c'est le malaise. Moi, lorsque je vais à une conférence, je présente des idées, je m'attends à ce que mes collègues critiquent mes idées. Puis des fois, ils le font d'une façon qui est très, très, très brusque,
mm-hmm.
qui peut heurter, Mais ça me force à réfléchir.
Ouais.
Et moi, je leur réplique également, puis j'espère que ce que je leur dis les force aussi à réfléchir à leurs propres prémices, puis à peut-être à les réviser. Puis à la fin de la journée, ça arrive souvent lors de conférences, vous avez des débats très animés entre deux profs, puis à la fin de la journée, ils sont au bar, puis ils prennent un verre ensemble, puis ils réussissent malgré tout à se parler.
Il y a quelque chose de culturel dans ce que tu t'énonces là, parce que justement, je trouve qu'au Québec, ça, ça a été nommé souvent, là, mais quand on a des débats, on devient tellement émotif que... On n'ira pas au bar prendre un verre après.
Non, non, ça va finir à côté, à 3h30 à côté du rack à bicycle, comme on dit. Là. Non, mais c'est ça, il n'y a pas réellement de culture de débat au Québec. Ça n'a jamais vraiment existé, puis je pense que maintenant, c'est pire que jamais.
Oui.
Parce que...
Est-ce que tu penses que c'est comme un résultat de ça, qui était déjà culturel, qui fait que maintenant, on ne veut plus débattre de rien, puis qu'on crée vraiment des tabous, des sujets qui sont très sensibles?
Ben, je pense que ça a fait débat là, récemment avec la publicité là, des Caisses des Jardins sur la fête des Patriotes. Ils ont osé appeler la société québécoise la communauté québécoise.
Ils ont-tu dit ça? J'avais pas
ils ont écrit
ça.
La communauté québécoise. On est désolé d'avoir offusqué la communauté québécoise. Et là, vous avez Paul Saint-Pierre Plamondon et d'autres personnes qui se sont offusquées en disant « Le Québec n'est pas une communauté, c'est une société ». Ben, moi, j'ai plutôt tendance à donner raison sur ce plan-là à Desjardins. Parce qu'une communauté, c'est des gens qui sont tissés serrés, qui se tiennent les coudes serrés, où il n'y a pas vraiment de débat interne, où il y a un consensus. Une société, c'est une société où il y a un environnement où il y a des dialogues, des critiques, il y a des tensions, des malaises, ce qui font de la démocratie.
On n'a pas ça au Québec.
Il n'y a pas ça au Québec.
Mais les malaises sont étouffés. Il y en a plein, en fait. Il y en a eu plein qui étaient comme contre les masques, mettons, pour les enfants à l'école. Mais du moment que ça a été dit...
Mais on n'a pas le droit d'avoir des discussions comme celle-là.
Non.
C'est coucou, conspirationnisme, pro-russe, etc., etc. On catalogue immédiatement les individus. C'est comme, c'est le principe de... Lorsque vous avez une grande famille, les grandes familles là, de nos grands-parents, vous avez à Noël, le grand souper de Noël, il y avait une règle d'or.
Pas de politique,
on ne
pas
parle
de religion.
Pas de politique, de religion autour de la table à Noël. Pas de chicane, s'il vous plaît.
C'est
ça, c'est un esprit communautaire. C'est pas un esprit sociétal. Donc, le Québec, ça ressemble un petit peu à la table du repas de Noël de nos grands-parents. On n'a pas le droit de dire des choses qui dérangent.
Mm-hmm.
Puis ça transparaît, je pense, dans les grands médias. Bon, je me suis posé hier soir, je me suis amusé ce matin à ma chambre d'hôtel, allumer un certain poste de télévision pendant 30 minutes pour voir... un poste de nouvelles, entre guillemets, pour voir qu'est-ce qui était dit, c'était quoi les nouvelles qui étaient discutées, puis c'est du fait divers.
C'est du
fait divers, puis même si je suis loin, je continue à suivre l'actualité, puis je pose la question à des gens, nommez-moi sur un poste mainstream de télévision, une émission ne serait-ce que de 30 minutes par semaine où on parle de manière objective et scientifique, par exemple, de ce qui se passe dans le monde. Où on a des invités, où il y a un véritable débat.
Mm.
30 minutes par semaine.
Une discussion animée de gens qui ne sont pas d'accord. Ben, il y avait Stéphane Bureau là, avant, mais ça a été cancellé.
C'est ça, ça a été cancellé. Pourquoi? On ne fait pas ça au Québec.
Non.
On ne peut pas se chicaner. Mais les gens voient dans le débat de la chicane. Mais ce n'est pas ça.
C'est
normal
faire,
d'avoir des débats, de ne pas être d'accord.
Ouais.
Moi, je ne m'attends pas à ce que tout le monde avec qui je discute soit d'accord avec moi.
Mais ce serait plate en titi.
C'est tant mieux.
Ouais.
C'est tant mieux. Moi, ça ne me dérange pas de recevoir un courriel d'un lecteur d'un de mes livres qui me dit « J'ai bien aimé ton livre, mais je suis mal à l'aise avec tel argument, puis voici pourquoi. » Parfait.
Mm-hmm. Ben, c'est comme un étudiant aussi. J'imagine que tu t'attends ça d'un étudiant. C'est comme tu l'amènes à réfléchir par lui-même, en fait.
Oui.
Pas à être d'accord avec tout ce que tu leur dis.
Non, puis ça transparaît aussi dans mon enseignement. C'est pas non plus de la propagande. J'enseigne de manière objective les différents auteurs, les différentes théories. Moi, je leur donne les outils pour qu'ils puissent utiliser ces outils-là par la suite pour pouvoir apprécier la réalité puis l'évaluer à la lumière de leur de ce qu'ils pensent, eux, du monde.
Oui, c'est ça. On voit tous le monde à travers des lunettes. On peut pas tous avoir la même perception.
C'est ça. Mais c'est ça. Au Québec, les débats deviennent l'équivalent de la chicane. La chicane autour de la table au repas de Noël. Et là, vous avez la grand-mère là, qui est en pleurs, qui dit « Mais pourquoi vous
c'est
m'imposez
dramatique.
Ça, une journée si importante? Là, je vous avais prévenu pourtant de... » C'est un esprit communautaire, puis ben, malheureusement...
On est devenu une communauté au lieu d'être une société, c'est ça?
Ben, je pense qu'on est toujours, on a toujours été une communauté.
Pourquoi? Parce qu'on a perdu toutes nos guerres? Qu'est-ce qui fait qu'on est une communauté?
Il n'y a jamais eu de culture de débat. Il y a jamais eu culture
c'est le débat, selon toi, qui fait qu'on est une société?
Je pense que c'est un élément fondamental qui définit une société.
Puis est-ce que tu dirais que le Canada... est une communauté aussi, tant qu'à ça.
Ben, disons que si c'est une société très soft. Disons que les oppositions restent dans des marges très,
ça
très,
très mainstream. Ça fait des coalitions, puis ça pense tout pareil. Là.
Oui, c'est ça. C'est ça.
Puis sinon, ben là, quand il y a un Poilievre, exemple, qui émerge un peu, il est méchant, méchant.
Mais c'est ça. Alors que vous avez, par exemple, une vraie société pour moi, ce serait la France, par exemple, où vous avez réellement tous les courants politiques qui sont représentés.
Oui.
Et qui sont accueillis à bras ouverts sur les différents
plateaux. Marine Le Pen n'est pas tant accueillie à bras ouverts.
Mais elle est quand même plus mainstream que son père l'était, mais son père a quand même eu une première fois droit de parole à la télévision dans les années 80. Il y a eu ouverture du débat. C'était Mitterrand. Bon, il y avait un peu Anguille sous roche à l'époque. Pourquoi ils avaient permis à Le Pen de pouvoir participer à une émission de télévision? Mais on ne l'a jamais empêché de s'exprimer. Il a toujours pu se présenter aux élections législatives, présidentielles, sans réellement problème. Mais vous regardez en France, vous avez l'extrême gauche, vous avez encore le Parti communiste français, vous avez Jean-Luc Mélenchon, les Insoumis, sur cet axe-là de la gauche, de l'extrême gauche politique. Vous avez, plus à l'extrême droite, vous avez le Rassemblement national, vous avez Reconquête, Éric Zemmour. Mais ces gens-là, même s'ils défendent des positions qui sont minoritaires, ben, ils ont le droit de s'exprimer pleinement sur les plateaux de télévision. Et lorsqu'ils sont sur les plateaux de télévision, ils ont une contrepartie. Il y a quelqu'un, un invité de qualité, qui s'oppose à eux.
C'est tellement beau et riche.
C'est ça, une société. Mm-hmm. Est-ce qu'on a ça au Québec?
Non.
Est-ce que vous avez ça au Québec? Je me sens un peu extérieur à tout ça maintenant, mais je trouve ça un petit peu déprimant.
Oui, vraiment.
Et puis, rajouter à ça le fait que les niveaux de bilinguisme au Québec sont extrêmement... C'est peu élevé.
Ouais.
C'est moins de 50% selon les statistiques.
De bilinguistes, donc de gens qui sont vraiment à l'aise dans les deux langues.
Les statistiques disent c'est 46% de gens au Québec qui se disent bilingues.
Okay.
Comment définit-on le bilinguisme? Est-ce que c'est une personne qui est capable de lire un livre entièrement en anglais et de le comprendre? Est-ce que c'est une personne qui serait capable de faire une présentation orale d'une dizaine de minutes en anglais? Ou le bilinguisme au Québec, c'est plutôt yes/no toaster. ça c'est la question.
C'est pas dit dans la statistique.
Comment on interprète la statistique, mais lorsqu'on parle à beaucoup de gens, même des adolescents, de jeunes adultes, leur connaissance en anglais, malheureusement, c'est très 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 limité. Ce qui fait en sorte que c'est des gens qui se privent d'une part extrêmement importante de l'information disponible dans le monde. Ça fait en sorte que c'est des gens qui s'en tiennent à l'information du dôme et puis à rien d'autre. Donc, leur monde se résume à l'espace québécois, qui est un espace parmi tant d'autres.
C'est ça.
Et ça, malheureusement, ça crée des perspectives qui sont très, très, très limitées. Mm-hmm. Et lorsque ces perspectives... et lorsque le dôme opère dans un filtre communautaire et non sociétal... faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas réellement de débat au Québec. Et dès qu'une personne ose remettre en question le statu quo, le consensus, automatiquement, systématiquement, c'est le mauvais enfant autour de la table au repas de Noël.
Ouais. Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X, et maintenant, en anglais, sur YouTube et X.
Oui, c'est ça. Puis on l'ostracise, puis il n'est pas réinvité l'année d'après.
As-tu, parce que je sais que tu as vécu ça suite à un texte que tu avais écrit, je pense, concernant la guerre en Ukraine avec la Russie, tu avais comme nuancé l'histoire un peu, puis ça t'a... Tu disais qu'en une nuit, tu étais devenu... Peux-tu nous expliquer un peu ce qui s'est passé avec ça?
C'était en janvier 2022. J'avais publié certains textes d'opinion dans Le Devoir, La Presse. J'expliquais un peu que l'élargissement de l'OTAN avait eu des conséquences sur la politique étrangère russe, que ça avait exacerbé la tension entre l'Ukraine et la Russie. Puis j'avais été invité à différentes émissions mainstream en février-mars 2022, avant le début de la guerre, après le déclenchement de la guerre, pour expliquer un petit peu ce qui se passait. Puis à un moment donné, une entrevue avec un animateur de radio, dont je n'aimerais pas le nom, m'avait posé la question, c'est quoi tout ça, le délire de Vladimir Poutine sur les nazis en Ukraine? Ça vient d'où tout ça? C'est de la folie, non? J'ai dit, écoutez...
La question était très dirigée.
Écoutez, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, pendant la Seconde Guerre mondiale, comme dans tous les territoires occupés en Europe, vous avez des populations locales qui ont collaboré avec les nazis. Vous avez eu une division SS en France, dont les membres ont été les derniers défenseurs du bunker à Berlin en avril 1945. Là. Bon, vous avez eu la division Charlemagne en France, vous avez eu des collaborateurs auprès de Léon de Grelle en Belgique qui ont créé une division SS aux Pays-Bas aussi, au Danemark et en Ukraine. Vous avez des nationalistes ukrainiens qui ont porté l'uniforme SS. Puis on le sait maintenant depuis la fameuse invitation en septembre 2023.
Mais c'était un accident.
C'est un accident de parcours, oui, c'est ça. Mais bon, vous avez, donc ce que j'ai expliqué, c'est que vous avez une part de nazisme dans le nationalisme ukrainien pendant la Seconde Guerre mondiale. Encore une fois, comme dans tous les autres territoires occupés en Europe. Et vous avez une part du nationalisme contemporain ukrainien qui a perpétué l'héritage de certains individus qui étaient associés directement avec l'acte de collaboration entre ces nationalistes ukrainiens-là et les SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Stefan Bandera, par exemple, qui avait collaboré avec les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale, encore aujourd'hui en Ukraine, vous avez des rues, des boulevards qui portent son nom, puis un ancien président, celui qui avait été empoisonné ou qui avait été défiguré, je ne sais pas si ça vous... Viktor Yushchenko, en 2004, celui qui a fait la Révolution orange, il avait donné le titre de héros de l'Ukraine. Roman Shushkevich, un autre individu comme ça, lui aussi. Donc, vous avez encore aujourd'hui une part du nationalisme ukrainien
qui
commémore cet héritage-là.
Ouais.
C'est pas tous les nationalistes ukrainiens, tous les Ukrainiens qui font ça, mais il y a une part qui continue à le faire.
Est-ce qu'il y en a qui sont en profond désaccord avec ça?
Oui. Mais vous avez des rues, des boulevards en Ukraine qui portent le nom de ces gens-là. Donc, ce serait comme un peu en au Québec, vous auriez le boulevard Adrien Arcan. Ça serait un peu malaisant,
non? On le cancellerait tout de suite.
Ben oui, ça serait un peu malaisant, ouais. Mais bon, c'est le problème. C'est ce que j'ai expliqué. Donc, il y a probablement cet élément-là de la part de Vladimir Poutine. Oui, c'est un élément de propagande, mais ouais. Ça repose sur un fait historique. Qu'on le veuille ou non, l'histoire a été écrite de cette façon-là, puis on ne peut pas revenir en arrière. Qu'on l'accepte, qu'on le reconnaisse, mais ça ne veut pas dire que les gens qui défendent l'Ukraine aujourd'hui sont tous des nazis. Mais si on veut comprendre d'où ça vient, ben voici, je vous offre l'explication. Ça a été terminé.
Pas le droit de dire ça.
Non, on ne pouvait pas dire ça. Ça minait l'effort de guerre.
Est-ce que c'est ça qu'on a dit? Ça a été ça le verdict après t'avoir cancellé?
On ne m'a jamais envoyé de courriel.
Non, tu n'as pas eu un papier?
Non,
mais est-ce que c'est ça la compréhension que tu en as eu?
Oui, parce que j'ai des amis qui avaient entendu une entrevue qui m'ont dit « Tu ne devrais pas dire des choses pareilles, tu fais le jeu du Kremlin, c'est de la propagande. » Oui, mais... Es-tu capable de comprendre qu'il y a une différence entre expliquer puis cautionner?
Oui, c'est ça.
Je veux dire, je suis un prof de science politique.
Mais comment ça que les gens comprennent plus? Exactement.
Je veux dire, c'est pour ça qu'on m'invite, là.
C'est ça.
Je veux dire, si vous voulez que je vous dise, oui, l'Ukraine va gagner, puis ça va être une question de semaine, puis il va y avoir un renversement de régime à Moscou, c'est ce que vous voulez entendre, là.
Mais c'est une
diseuse
de bonne aventure qui veut le rendu là.
Ben, c'est ça, puis c'est pas de la science politique.
Non.
C'est pas une analyse empirique, scientifique de la situation. C'est ce que vous voulez... Ben, inviter d'autres personnes. Mais moi, je vais vous donner l'analyse qui me semble être la plus objective possible. Puis j'avais dit dès le départ aussi, compte tenu du déséquilibre en termes d'armement, de soldats disponibles entre l'Ukraine et la Russie, ben, a priori, l'avantage n'est pas du côté ukrainien. Bon, ben là,
ça t'avais pas dit ça non plus.
Ah non, mais non, ça minait l'effort de guerre. Or, deux ans plus tard, bon.
T'avais un petit peu raison.
Comme on dit en ce moment, il y a un problème de ressources humaines dans les rangs de l'armée ukrainienne. Pourquoi? Ben parce que tout simplement, plus de chair à canon du côté russe que du côté ukrainien.
Ouais.
C'est purement mathématique. C'est, à quelque part, les gens, mais c'est que les gens opèrent dans un monde très manichéen. Depuis 30 ans, là, le monde occidental a remporté la guerre froide. Donc, le camp du bien a remporté la guerre contre le camp du mal. Puis j'ai l'impression que les gens, une grande partie du monde occidental, c'est pas restreint juste au cas québécois, mais opèrent dans un monde manichéen. Le bien, le mal.
On est à fond là-dedans.
Et ça, on le voit très bien dans le cas de la Russie. Simplement, penser à la possibilité qu'un jour, on va devoir peut-être négocier avec Vladimir Poutine pour mettre un terme à la guerre... Mais non, on ne peut pas faire ça. Parce que Vladimir Poutine, c'est pire qu'Hitler.
C'est Satan.
C'est Satan. Donc, quand on est dans un monde manichéen comme ça, entre le bien et le mal, nous, on représente le bien, eux représentent le mal, ben, évidemment...
On ne communique pas avec le mal.
On ne peut pas faire de compromis avec le diable.
Non.
Ça va de soi. Mais la question, c'est est-ce que Xi Jinping, Vladimir Poutine, tous les autres dictateurs de ce monde sont les équivalents de ce qui était Staline ou Hitler.
Ouais. Non, c'est la question se pose.
Est-ce qu'on peut se poser la question? Mm-hmm. Parce que moi, je reconnais qu'il y a des compromis qui sont à la base pourris, qu'on ne devrait jamais faire avec certains individus. Hitler est le meilleur exemple. Mm-hmm. Hitler représentait le mal absolu.
Il était dans le délire. Là.
Donc, évidemment, exterminer des gens de façon programmée, mm-hmm. Bureaucratique, mm-hmm. c'est totalement inadmissible. Donc, faire un compromis avec un régime, un individu qui va perpétuer ou mettre en place un régime cruel et inhumain qui empêche les individus d'avoir une vie digne, ou tout simplement de vivre à la base, ben ça serait un compromis pourri.
Ouais.
Donc, Hitler, Mao, par exemple, qui est probablement Mao le plus grand tueur en série du 20e siècle, ça, ce sont des gens qui représentent le mal absolu. Maintenant, un dictateur, que ce soit Hugo Chavez, par exemple, en Amérique du Sud à l'époque, Fidel Castro ou Raoul Castro ou Vladimir Poutine, Xi Jinping, nommez-les. Est-ce que ces gens-là représentent le mal absolu? Est-ce que ces gens-là mettent en place un régime cruel et inhumain?
Mais il y en a plusieurs qui te répondraient oui en ce moment.
Oui, mais c'est parce que si on a une appréciation entre le bien et le mal, et à partir du moment où on prive un tout petit peu les individus de leur liberté politique, par exemple, ben c'est le mal absolu, impossible de négocier avec ces gens-là, ben il n'y a pas de négociation possible. Et ça nous force à mener la guerre
ouais.
jusqu'à la victoire.
Ouais.
Et moi, ce que je dis, c'est est-ce que cette victoire-là, en Ukraine, par exemple, est-ce qu'elle va se concrétiser? On devrait se poser cette question-là aussi. Mm-hmm. Puis à la lumière de ce qui se passe, je ne pense pas que ce soit le cas. Donc, tous les conflits se terminent soit par une victoire totale sur l'adversaire, s'il ne semble pas... je ne pense pas que c'est ce qui va se passer en Ukraine au cours des prochaines semaines, des prochains mois.
Ça augure pas pour ça.
Ça augure pas très bien. Donc, si ce n'est pas ça, il ne reste qu'une seule alternative, c'est le compromis.
Et pour ça, il faut discuter.
Il faut discuter. Puis la question, c'est est-ce qu'on peut discuter avec un type comme Xi Jinping ou Vladimir Poutine? Est-ce que ces gens-là représentent le mal absolu? Est-ce que ce sont réellement des gens équivalents en termes de cruauté
ouais.
à Hitler et à Mao? Bon, ben, je pense que la question mérite au moins d'être posée
exact.
Et d'être débattue. Mais mm-hmm. si on refuse de le faire, ça nous condamne à mener des guerres
sans fin.
Des guerres sans fin
mm-hmm.
contre des individus.
Qui coûte très cher en termes de vie, mais en termes d'argent à tout le monde.
Oui, mais là, c'est une guerre par procuration aussi. On devrait aussi se poser la question
est-ce que c'est les intérêts?
Parce que c'est moral aussi de demander à des gens qu'on ne connaît pas,
oui.
en réalité, on s'en fout, là, que ces gens-là aillent mourir dans des tranchées anonymes dans le Donbass,
mm-hmm.
Simplement au nom. D'un idéal absolu comme ça, du
ouais,
bien,
les
du bien contre
plus,
le mal.
En fait, mais c'est souvent ça, les guerres, parce que je pense... la guerre qui m'a le plus fascinée, ça a été la guerre du Vietnam. Puis c'était ça aussi. Les jeunes Américains allaient se faire tuer à 18 ans et ils comprenaient même pas les enjeux. Puis une fois là-bas, ils disent « Mais qu'est-ce qu'on fout ici? »
Qu'est-ce qu'on fait ici, c'est ça. Puis beaucoup réalisaient « Bon, mais c'est un peuple qui veut s'autodéterminer d'une manière différente de l'idéologie que nous, on préconise.
Mm-hmm.
Mais bon, puis au final, bon, on n'a pas réellement de chance de l'emporter. » Une guerre de guérilla comme ça, c'est très, très, très difficile de remporter ce type de guerre-là.
Mm-hmm.
Bon, ben, on va négocier, hein? Donc, Nixon, Kissinger, ben, ils ont ouvert des négociations avec le Vietnam du Nord, puis ça s'est concrétisé au milieu des années 70.
Mais les Américains n'ont jamais reconnu qu'ils avaient perdu la guerre.
Non.
C'est pas seule l'histoire officielle.
Mais c'est ça. Donc, en Occident, j'ai l'impression que les gens opèrent maintenant dans une dynamique très, très, très manichéenne,
ouais.
où il n'y a plus de zone grise. C'est soit le bien, c'est soit le mal, puis on doit choisir notre camp, à tout prix.
Est-ce que tu trouves que c'est comme ça où tu habites présentement?
Non, parce que moi, les discussions que je peux avoir avec ma belle famille, qui est kazakh,
mm-hmm.
c'est très, très, très varié. Il y a des individus qui me disent « Vladimir Poutine a raison hein? », puis d'autres personnes disent « On ne peut pas déclencher une guerre comme ça, de façon mm-hmm. illégale. Puis, » Puis ces gens-là discutent entre eux, puis j'essaie okay. d'intervenir avec les meilleures de mes capacités aussi en russe, là, qui ne sont pas nécessairement...
Okay, tu parles
russe aussi. Oui, ben, je ne parle pas, je ne serais pas en mesure... Ce serait un peu l'équivalent du bilinguisme, je pense.
Ouais, ouais.
Yes, au
no
Québec.
Toaster en russe.
Yes, no toaster en russe, oui. mais bon, j'essaie d'intervenir comme je peux, mais il y a des débats, les gens en parlent, et puis il n'y a personne qui est stigmatisé pour dire que soit Vladimir Poutine a tort ou a raison.
Dirais-tu que ici on est exposé à une propagande anti-russe depuis tellement d'années à cause des États-Unis, la guerre froide et tout ça, qu'on est rendu tellement teinté que c'est plus vraiment possible? Est-ce qu'il y a ce facteur-là qui joue, selon toi?
Oui, bien, s'il n'y a pas vraiment de débat dans les postes de télévision, dans les médias mainstream, non.
Je pense à Oliver Stone que j'ai reçu, qui a été... vilipendé parce qu'il a fait une entrevue avec Vladimir Poutine.
Mais oui, mais moi, c'est ce que je dis aussi dans mon dernier livre. Je pense qu'on y gagnerait énormément à lire les discours de Vladimir Poutine.
Ouais.
Parce que il explique depuis 10 ans très, très, très clairement les raisons, les fondements du problème entre la Russie et l'Occident.
Ouais.
Et puis, il exprime très, très, très clairement le monde de demain qui est en train de se dessiner devant nos yeux. Je pense qu'on gagnerait à le lire, à l'écouter. Mais ça, c'est un peu la base du débat, d'un esprit sociétal. Mais c'est
devoir régler un conflit
c'est
aussi.
Ça, mais non, c'est le mal absolu. Ah, on ne peut pas écouter, lire, essayer de comprendre le mal absolu. On doit le combattre, le défaire à tout prix. Ben là, on est dans un cul-de-sac, puis on a un sérieux problème, là.
Ouais.
Parce qu'on est en train de refuser de voir la réalité qui est en train de se dessiner devant nous. Puis cette réalité-là, là, elle va avoir des conséquences majeures sur nos vies. Ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est le début d'un nouveau paradigme.
Qu'est-ce que tu penses que... Ça va être quoi les impacts de cette réalité-là, selon toi?
Je pense qu'on est en train de revoir l'émergence d'un autre bloc contre le bloc occidental. Et puis, j'ai l'impression que les gens se disent « Oui, le bloc occidental, c'est le bloc dominant. » C'est le bloc qui est voué à l'emporter.
La vapeur est en train de se renverser.
Mais lorsqu'on regarde là, qui constitue le bloc occidental à l'heure actuelle, on se rend compte que, mis à part l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, il y a beaucoup, beaucoup plus de sociétés qui sont en train, lentement mais sûrement, de tomber dans ce qu'on peut appeler le bloc illibéral, qui est organisé autour de l'axe Moscou-Pékin. Mm-hmm. Puis lorsqu'on regarde cet axe-là, c'est un axe qui contrôle les principales ressources naturelles de la planète. Si on ajoute le Moyen-Orient à l'axe libéral, ben vous avez le pétrole, les terres rares. On aime ça avoir des téléphones intelligents, dernière génération. Mais pour pouvoir faire ces choses-là...
Les mines de lithium.
C'est ça, il faut des terres rares. Si on est en train de se couper sans savoir de ce monde-là, on est en train de se couper de ressources naturelles importantes. Fondamentale pour notre économie.
On ne réfléchit pas à l'impact que ça peut avoir sur l'économie, en fait.
Mine de rien. Et si on n'est plus capable d'importer du lithium, on est obligé d'en trouver chez nous.
Mais il y en a, mais on ne l'exploite pas pour l'instant. Là,
Faire mal à notre terre. Mais ça, le problème, c'est que avec la délocalisation de la globalisation, de la mondialisation au cours des dernières décennies, on a, en quelque sorte, on a exporté les côtés néfastes du capitalisme ailleurs.
Ah, vraiment.
Les gens qui vivent dans des conditions environnementales dégueulasses,
les poubelles.
Oui, ça, c'est le problème des autres.
Ah, ouais.
Nous, on a la belle partie du capitalisme, mais ça, c'est en train de se terminer s'il y a des nouvelles frontières qui sont en train d'émerger entre notre bloc et le bloc illibéral. Si on veut continuer à avoir des belles voitures électriques, il va falloir qu'on trouve ces ressources-là chez nous. Ça veut dire l'ouverture, la réouverture de mines chez nous, avec la pollution qui va en découler. Et là, je pose la question, est-ce que vous êtes prêts à faire face à cette réalité-là?
Mm-hmm. Parce qu'on négocie pas avec Poutine. Dirais-tu que c'est comme un effet domino qui mène à ça?
Ben, je pense que c'est une dynamique qui est en œuvre depuis 10 ou 15 ans.
Ouais.
L'émergence de ce bloc-là est libéral. Xi Jinping, depuis qu'il est arrivé au pouvoir en 2013, a commencé, mais solidement, à dédollariser la Chine.
Mm-hmm.
Simplement depuis le début de l'année, il a liquidé pour 53 milliards de dollars de bons du Trésor américain. Donc, il se débarrasse
totalement du dollar américain. Ça explique la
l'or.
Chute
Donc, ce que ça fait en sorte, c'est que la Chine est en train de se préparer, lentement mais sûrement, à une rupture radicale avec le monde occidental organisé autour du consensus de Washington, du dollar américain. Et ça, c'est comme ça depuis 2013, depuis une dizaine d'années.
Est-ce qu'on va finir par devoir changer notre devise internationale?
Ben, ça va. Le dollar américain risque d'être affaibli. Le dollar américain ne va pas s'effondrer, mais il va perdre sa valeur, ça va avoir des impacts sur nos vies.
Mm-hmm.
Mais si ce bloc-là est en train de se fermer sur lui-même, devient un bloc autarcique, ben c'est un bloc qui, géographiquement parlant, démographiquement parlant, sur le plan des ressources naturelles, ça va être le bloc dominant. Et le bloc occidental va être le bloc marginal si la tendance se maintient.
Ça a été annoncé depuis quand même très longtemps. Là. Il y a tellement de gens qui ont dit que la Chine allait finir par être la puissance mondiale. Puis on est pas mal là.
Oui. Voilà. Sur le plan économique, oui, c'est la première puissance mondiale. Ils sont en train de développer aussi une économie de guerre, une armée qui est assez formidable. Encore, encore une fois, sur le plan purement mathématique, l'armée chinoise n'a pas d'expérience du combat, contrairement à l'armée américaine, par exemple, qui est ça fait une énorme différence. Mais on voit très bien ce qui est en train d'émerger. Puis depuis la guerre en Ukraine, depuis 2 ans et demi, ce mouvement-là s'accélère. Mmh. Et puis, malheureusement, moi, j'ai l'impression que personne n'est prêt à accepter cette réalité-là, puis à considérer, voici ce que notre monde dans 20 ans, voici à quoi ça va ressembler, voici les défis auxquels on va être confrontés, voici à quoi notre monde va ressembler. Les gens ont fait le choix de rester volontairement aveugles à cette réalité-là. Et ça, à un moment donné, les gens ne pourront pas rester endormis éternellement.
C'est le trouble fait, toi, parce que tu arrives avec
Les
mauvaises nouvelles, c'est ça.
Oui, mais tu sais, si au moins, il y a quelques personnes qui se disent « Ah oui, ben, ce qu'il dit, ça fait peut-être du sens. Je vais lire un petit peu sur le sujet. » Tu sais, ça permet d'allumer certaines personnes, puis que cette réflexion-là commence à s'élargir lentement mais sûrement, puis qu'il y a d'autres personnes qui en viennent à en discuter, ben tant mieux.
Mais tu sais, je me souviens quand, j'imagine tu l'as écouté, Tucker Carlson, quand il a fait son entrevue avec Vladimir Poutine. Moi, je me cache pas, j'adore Tucker Carlson. Ceux qui détestent Tucker Carlson, je suis certaine qu'ils l'ont jamais écouté. Ou ils ont écouté des extraits, des montages, on l'entend dire des choses un peu
ils comprennent pas l'anglais.
Aussi, il y a tout ça. Mais c'est un gars très nuancé, très intelligent. Puis donc, l'entrevue... Quand c'est sorti, nous, on a été vraiment impressionnés, mon conjoint et moi, de voir tout le mouvement qui est venu avant d'étouffer cette histoire-là, puis de l'assassiner avant même que ce soit sorti. C'était « Vous allez pas écouter ça, ça va être de la propagande », comme si c'était une sirène qui allait nous enchanter pendant qu'on écoutait, qu'on allait tomber sous le charme de Vladimir Poutine, comme si vraiment on n'est plus capable, nous les humains, d'esprit critique, d'intelligence et de faire notre propre opinion. Et c'est ce qu'on a vécu avec la pandémie aussi. Oui.
Par exemple, un ancien leader au Parlement européen, Guy Verhofstadt, un politicien belge, avait tweeté avant même que l'entrevue soit diffusée que l'Union européenne devait considérer de bannir, d'interdire Tucker Carlson d'entrer dans l'Union européenne.
Ils ont pensé à ça aussi au Canada, parce qu'il est venu, il a chialé sur Trudeau, fait que là, il n'a plus le droit de revenir. Il y en a qui voulaient qu'on lui interdise. Voilà.
Mais tu sais, faut aussi juste regarder cette... ils ne l'ont pas fait, évidemment, mais juste la volonté de le faire, c'est illustratif, vraiment, d'une manière de penser en Occident qui n'est plus très démocratique, qui est, très, encore une fois, très manichéenne. Mm-hmm. Vous êtes dans le camp du bien avec nous ou vous êtes contre nous.
Oui, vous puis écoutez si... Tucker, vous êtes des méchants.
Puis si vous êtes contre nous, là, ben, déménagez. Partez, puis revenez plus ici.
Ouais.
Ah, combien de fois j'ai eu droit à cet argument-là,
en fait, c'est
moi?
C'est intéressant que tu dises ça, parce que je ne l'ai jamais entendu, je n'ai jamais dit ça en pleine face, votant, c'était pas contente, mais c'est quand même, ça fait partie de l'esprit ambiant. On finit par se dire constamment, ben, on est tellement plus bienvenu ici qu'on va aller vivre ailleurs.
Ben oui. On a envie de s'exiler.
C'est ça. Il y en a plein qui le font.
Alexandre Solzhenitsyn, dans les années 70, l'archipel du Goulag, s'exile de l'Union soviétique parce que son livre est banni, puis c'est devenu un pestiféré. Mm-hmm. Donc, il déménage en Occident. C'est l'esprit de l'exilé, c'est ça. Je suis plus bien chez nous. C'est différent de l'esprit de l'immigrant économique, par exemple.
Ouais.
Là, c'est bon, mais les conditions matérielles ne me permettent pas de vivre convenablement, puis je veux aller vivre en Amérique du Nord. J'aspire à mieux. Ça, c'est autre chose. Mais l'esprit de l'exilé, c'est de dire, je vais peut-être être mieux ailleurs. On dit souvent que le gazon n'est pas nécessairement plus vert chez le voisin, mais dans l'esprit d'exilé, c'est oui, le gazon peut être plus vert chez le voisin, puis je vais aller expérimenter, je vais aller voir, puis si c'est le cas, je vais y rester.
Mm-hmm. Qu'on étouffe, puis j'ai envie qu'on rentre un peu dans le thème de ton livre, que je trouve ça intéressant, tu as écrit sur la crise COVID. J'ai reçu Naomi Wolf à mon podcast, je ne sais pas si tu la connais... Puis elle a un chapitre entier qu'elle commence en disant qu'elle est rentrée chez Barnes & Noble aux États-Unis, puis elle cherchait, mettons c'était en 2022 ou même peut-être 2023, puis elle cherche des essais d'intellectuels qui se prononcent déjà sur les années qu'on vient de vivre, 2020, 2021, 2022. Puis elle dit « il n'y en a pas ». Puis là, elle a un moment dans son livre où elle est comme en état de... est totalement découragée de constater que les intellectuels de notre monde ne se sont pas prononcés sur une crise monumentale sans précédent qu'on a vécue comme humanité. Et tu l'as fait. Alors, premièrement, félicitations. Parce que c'est vrai, il n'y en a pas beaucoup. Tu sais, je pense, j'ai reçu professeur Perron, Alexandre Henrion Code, mais c'est des médecins, c'est des scientifiques. Mais vraiment, des intellectuels comme... bon, toi, t'es politologue. Il n'y en a pas. Il y a Christian Dufour aussi qui s'est quand même prononcé. Mais il y en a... Quand on peut les nommer sur une main, on se dit, mon Dieu, prononcez-vous, les amis. Mais on a besoin de ces voix-là qui s'élèvent, qui vont faire un retour. Parce que c'est pas vrai qu'on n'a pas encore assez de recul pour se prononcer. On en a, on peut...
Il n'y en aura jamais assez de recul. Les gens disent, faut que t'en reviennes, là. C'est fini, là.
Ah, non, on entend beaucoup, ça.
Un instant, là. La loi sur les mesures d'urgence a été imposée. Mm-hmm. Des gens, leurs comptes en banque ont été gelés, puis on sait maintenant, on s'en doutait déjà à l'époque, on sait maintenant, suite à une décision d'un tribunal, que la menace avait été exagérée, qu'il n'y avait pas de raison d'imposer cette loi-là, de suspendre les droits et les libertés des individus pendant 2 ans, de restreindre...
Dirigé par décret pendant 2 ans.
Exactement. C'est ce que je dis en France, là. Entre 2015 et 2022, la France a été gouvernée sous régime d'état d'urgence pendant 4 ans.
OK, ça a commencé avant...
2015-2017, menace terroriste. Le Bataclan.
Ah, le Bataclan.
Pendant
d'accord.
2 ans,
oh, je savais pas qu'il y avait
sous état d'urgence. 2020-2022, sous état d'urgence.
Wow, c'est troublant, là.
C'est, l'état d'urgence, ça a toujours existé. C'est les Romains qui ont inventé ce concept-là, la dictature. C'est les Romains qui ont inventé le concept de la dictature où on suspend momentanément les droits fondamentaux des citoyens et on concentre tous les pouvoirs de l'État entre les mains d'un individu, le dictateur. Puis à l'époque, les Romains choisissaient le dictateur, ils choisissaient la personne la plus vertueuse, qui avait les capacités, les qualités nécessaires pour faire face à la crise. Donc vous avez, par exemple, Cincinnatus. La ville de Cincinnatus aux États-Unis est nommée en son honneur. Cincinnatus, un ancien consul romain, à la retraite, la légende dit qu'il était en train de labourer son champ et la République romaine était en période de crise et vous avez des sénateurs qui sont venus le voir habillés en rouge avec leur toge dans son champ. Cincinnatus, on a besoin de toi, s'il vous plaît, viens sauver la République. Donc, il a accepté le statut de dictateur, le mandat de dictateur, pour régler la crise, que réglant en l'espace de quelques jours, une fois la crise réglée, il est retourné devant le Sénat, il a fait rapport, voici, vous m'avez nommé dictateur pour régler la crise, je l'ai réglé, voici ce que j'ai fait, maintenant, je vous rends tous mes pouvoirs. Puis il retourna à son champ.
C'est un autre style de dictateur de ce qu'on connaît à présent.
Puis il retourna à son champ. Mais on comprend que ça peut être nécessaire d'avoir ce mécanisme-là lorsqu'une société est réellement confrontée à une menace que les moyens habituels, institutionnels, constitutionnels, normaux sont incapables, sont inefficaces. Ça peut se produire, donc il est normal.
C'est court dans le temps.
C'est très court dans le temps, puis les Romains, la période maximale, c'était 6 mois. La dictature, c'était 6 mois maximum, c'est extrêmement long.
Ouais.
6 mois maximum. France, encore une fois, 2015-2022, la France a été gouvernée sous régime d'état d'urgence pendant 4 ans.
Segments de 2 ans.
Oui, le Québec, ben, pendant 2 ans.
Oui. On a été les derniers à le lever.
Oui, et
plus,
puis, c'est normal.
Non, pas de problème. Il n'y a pas de retour là-dessus. Il n'y a pas de mea culpa.
Alors que suspendre les droits fondamentaux des individus dans une société libérale, qui est quand même le fondement de la société canadienne québécoise, c'est majeur. Mm-hmm. Donc, je m'excuse, mais on ne va pas en revenir.
On ne va pas en revenir. Moi, je n'ai pas l'intention d'en revenir.
Il faut en discuter parce que ça s'est produit en France avant même la pandémie. Mm-hmm. Ça s'est produit pendant la pandémie. Et là, vous avez d'autres menaces existentielles là, qui planent au-dessus de notre tête.
On n'a pas fini. Là.
Donc, si on est en train de normaliser suspension de l'état de droit pour faire face à des menaces réelles ou imaginaires...
Ça pourrait devenir un état permanent.
Ben, en France, en tout cas, 2015-2022, c'était un état quasi permanent.
Est-ce que tu penses qu'on est en train de basculer vers une forme de totalitarisme?
En Occident, depuis 30 ans, l'élément majeur qui prédomine dans l'esprit des gens, c'est plus la préservation des libertés individuelles, c'est rester en vie.
Ouais, c'est
une vision.
C'est la prémisse de ton livre.
C'est la biopolitique. On vit dans un monde où la politique se confond avec la biologie. Notre objectif individuel, l'objectif sociétal, collectif, c'est d'assurer le maintien en vie des individus.
Coûte que coûte.
À tout prix. Mm-hmm. Il n'y a plus aucune limite. L'idée, c'est de rester en vie le plus longtemps possible. Vivre, respirer jusqu'à demain, la semaine prochaine, jusqu'à la fin du mois, puis le plus longtemps possible.
Peu importe la qualité de vie.
Peu importe la qualité de vie. Vivre le plus longtemps possible, à tout prix. C'est comme ça depuis 30 ans. Il y a des raisons pour lesquelles c'est comme ça. C'est ce que j'essaie d'expliquer dans mon livre.
Ouais.
Et, cette façon de penser-là est en train de devenir dominante.
Mm-hmm.
Et lorsque c'est le cas, ben, à tout prix, rester en vie à tout prix, imposer des codes QR, limiter la liberté de mouvement des individus, empêcher les individus, contact humain, empêcher les individus de voyager en avion, parce que voyager en avion, ça pollue.
C'est méchant.
C'est méchant. Ben oui, à tout prix.
Mm-hmm.
Ah ben, on va imposer des codes QR, on va imposer des quotas de nombre de vols par année.
On s'en va vraiment vers ça.
Ben, il y a des gens, en France, Jean-Marc Jancovici, par exemple, qui a évoqué très ouvertement la possibilité qu'on devrait peut-être commencer à imposer des quotas de nombre de vols qu'on peut prendre au cours d'une vie.
Ouais.
Au nom de sauver la planète. Parce que si on ne sauve pas la planète, on va tous mourir.
Mais c'est ça,
exactement. Et là, on est en train de basculer dans un monde de peur. La peur. La peur, c'est irrationnel.
Ouais, c'est ça.
La peur, là, c'est mes enfants qui ont peur du monstre cachant en dessous de leur lit ou dans le garde-robe lorsqu'elles vont se coucher
c'est
le soir.
C'est pas là que tu prends tes décisions raisonnables.
Non. Il y a des dangers.
Mm-hmm.
La pandémie, virus, un danger. Il y a des gens qui en sont morts. D'accord. Qui en est mort? Quelle était la population
85
qui était...
ans et plus comorbidité.
Voilà. Une fois qu'on sait ça, on met en place des mesures qui sont proportionnelles
exact.
À la menace. Ça, c'est ne pas percevoir la menace comme étant une peur irrationnelle, mais comme un danger potentiel.
Mm-hmm. On analyse pragmatiquement.
Pragmatiquement, froidement. Quelle est la menace à laquelle on est confronté? Voici. Bon. Quelles sont les mesures les plus proportionnelles qu'on peut mettre en place pour faire face à ce danger-là?
Mm-hmm.
Ben, voici. On n'est pas obligé de fermer les écoles pendant 2 ans, puis les garderies, puis etc. etc.
Les masques pour les enfants, tout
ça. Qui n'est absolument pas à risque.
Mais c'était pour protéger leurs grands-parents. Alors, le fardeau de culpabilité qu'on a mis sur nos enfants, c'est...
Oui, c'est horrible. Ça, oui. Parce que les enfants, c'était des assassins potentiels
exactement.
De grand-papa et grand-maman.
Oui.
C'est morbide, ça.
C'est horrible de mettre
vivre
ça sur
dans
nos
une
enfants.
Société ou une communauté comme ça.
Oui.
On met cette pression-là comme ça sur les enfants, puis on vit dans un monde comme ça où mes actions... peuvent poser préjudice à des millions et des millions de personnes.
Moi, je suis convaincue que c'est un trauma qu'ils vont porter toute leur vie, ces enfants-là.
Ça empêche de vivre aussi.
Oui. Puis de jouir de la vie. Un enfant, ça joue tout le temps.
Ben oui. Puis là, vous voyez, dans certaines municipalités au Québec, vous avez des personnes en après-midi, la fin de semaine, qui appellent la police parce que les enfants jouent au basketball
ou hockey dans
la
rue.
Dans rue, ça fait du bruit.
Non, mais sage-femme.
On est un peu rendu là.
Ah oh, oui.
Est-ce que c'est normal comme type de société?
Non, fallait les mettre sur leurs jeux vidéo pour
oui,
sauver des vies.
Exactement, oui, oui.
À quel point
avec le casque d'écoute, parce que ça peut faire du bruit aussi, on
c'est
peut détruire
ça.
Leur oui, mais ça, c'est pas grave. Mais, donc, on vit de plus en plus dans un monde où on n'a plus le droit de vivre.
Mais
parce que toutes
nos
actions...
Il n'y a plus de rationnel
non plus, tu sais. On est tombé dans la peur.
On
a sombré complètement dans la peur, puis ça, une peur, c'est irrationnel.
Comment on s'en sort?
Ben, c'est une bonne question. J'ai
ouais.
malheureusement pas la réponse à cette question-là. Mais le monde dans lequel on vit depuis 30 ans, ben, je pense que de plus en plus, c'est un monde de peur irrationnelle où l'élément qui prédomine, c'est rester en vie à tout prix.
Mm-hmm.
Puis ça, c'est extrêmement problématique parce que ça peut mener à des mesures extrêmement liberticides. Et une fois qu'on a accepté que la biopolitique, c'est ce qui est le plus important, rester en vie, encore une fois, lorsqu'on a accepté ça, les gens ne se posent plus de questions.
C'est ça.
Les gouvernements peuvent suspendre les droits et libertés, puis les gens,
non seulement
ils vont le demander, ils vont applaudir,
exact.
Mais il y a des gens qui vont critiquer le fait que le gouvernement ne va pas assez loin.
On a eu ça!
Ben oui.
Oh mon Dieu, j'avais oublié ce bout-là! Ça a tellement été loin,
et lorsque,
incroyable!
Et lorsque vous avez des gens, vous dites, mais écoutez, liberté individuelle, on vit dans une société libérale, c'est fondamental, prenez le temps de réfléchir à ce que vous faites, là. Ton irresponsabilité va me tuer.
Exact.
Wow!
Mais tu parles du citoyen irresponsable dans ton livre.
Mais ça, oui, ça c'est important. Si on veut basculer dans un monde où on ne veut pas que l'État intervienne, impose des mesures liberticides, ben, on a aussi des responsabilités. On doit accepter par nous-mêmes que, encore une fois, lorsqu'on analyse un danger, on se dit, bon, ce que je fais peut poser préjudice à certaines personnes. Je ne vais pas m'empêcher de poser mon action, mais avec précaution. Donc, moi, dans mon esprit à moi, l'esprit qui aurait dû prédominer pendant la pandémie, on fait face à un danger, il y a des personnes, une clientèle très particulière qui est plus susceptible de mourir de ce virus-là, personnes âgées, comorbidité, bon, avant d'aller voir grand-papa, grand-maman au CHSLD, bon, assurez-vous, vous n'êtes pas malade, ou demandez à ce que la fenêtre reste ouverte, aérée, maintenez une certaine distance, si possible, évitez de vous embrasser, serrer la main ou quoi que ce soit. T'sais, vous pouvez quand même vous voir, mais voyez-vous d'une façon responsable en minimisant au maximum les risques. C'est pas obligé là, de mettre l'entièreté de la société sous couvert. Puis pendant 2 ans, on s'empêche de vivre, là.
Mais c'est ça parce que tu me parles du 2 ans, puis moi, c'est ça que, depuis tantôt, je veux dire, c'est que moi, je me souviens au mois de mars 2020, quand ils ont déclenché vraiment l'état d'urgence, il y avait déjà des médecins qui commençaient à essayer de faire des sorties pour dire qu'il y avait assez de données, parce que ça faisait déjà depuis décembre que ça circulait, qu'ils le voyaient aller. Donc, il y avait déjà 4 mois de données pour dire « on sait qu'il n'est pas aussi létal que ce qu'anticipé par l'OMS, on sait qu'il tue des gens plus âgés ». Et on sait qu'il y a des conséquences à faire des quarantaines comme vous faites, d'isoler les gens comme vous, d'isoler les gens en santé comme vous le faites. Donc déjà en mars, on savait qu'on s'en allait, que les mesures qui étaient en train de se prendre étaient très irrationnelles. Puis moi, c'est déjà là, je me disais, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, mais là, j'avais des... Si je sortais de chez nous, je pouvais aller en prison pendant 6 mois. Tu sais, on avait... Je connais plein de gens qui ont eu des amendes de 1 500 $ pour avoir juste été dehors dans un... Ouais. J'ai parlé avec un Canadien dernièrement qui habite au Manitoba, je pense, puis lui, il a eu une amende pour avoir donné un câlin à quelqu'un. Tout de suite, le policier est venu l'arrêter. « Hey, wow, à tapeu, là, comment on a pu se rendre là? » Puis comme tu dis, je me souviens vraiment dans les sondages, il y avait des gens qui disaient « Le gouvernement n'en fait pas encore assez. » Puis tu sais, tu parles du citoyen irresponsable, puis ça me dérangeait un peu parce que je me disais « Ça reste... » difficile. Moi, tu m'aurais peut-être considéré irresponsable, mais basé sur les données que je voyais, les médecins qui se faisaient censurer, qui essayaient de sortir, ça sentait déjà le feu pour moi.
Mais ce que je veux dire par citoyen irresponsable, moi, par exemple, lorsque mes enfants ont la gastro, je les garde à la maison.
Oui, puis tu n'en parles pas, tes enfants dans une chambre.
Ben non, mais je me disais, je suis responsable dans le sens où ben, je sais très bien que si j'envoie la garderie à l'école, je ne veux pas qu'ils contaminent les autres enfants. Oui, puis je m'attends un petit peu à la même chose de la part des autres parents. C'est ça, la citoyenneté responsable.
Je comprends.
On ne devrait pas avoir à mettre dans des quartiers résidentiels à proximité d'une école des panneaux, des dos d'âne, 5-6 dos d'âne, des panneaux limite maximum 30 km/h. Il y a des enfants qui jouent. Je suis dans un quartier résidentiel, je suis conscient. Un enfant est un enfant, il peut sortir de derrière une voiture, derrière un arbre, traverser la rue sans regarder.
Oui.
Je ne devrais pas avoir à me faire dire limite de vitesse 30 km/h. Je devrais savoir par moi-même que je vais me considérer comme un citoyen responsable. Je ne vais pas m'empêcher de conduire dans le quartier parce qu'il peut y avoir des enfants, mais je vais conduire à une vitesse que je sais qui est sécuritaire.
Mais est-ce que les gens te répondraient, parce que je l'entends et je le vis, ici, on a des enfants, le monde conduit comme des malades, et donc, je me dis, les gens vont dire « Oui, mais c'est parce qu'il y en a tout le temps qui ne vont pas le faire, fait qu'on n'a pas le choix d'être comme drastique puis de mettre des mesures pour tout le monde, parce que toi, tu es citoyen responsable, mais il y en a qui ne le seront pas, comme ces maudits imbéciles qui n'ont pas été prendre le vaccin. Eux, ils sont irresponsables, donc il faut le rendre obligatoire. » C'était ça, la rhétorique.
Oui, 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 oui. Mais c'est une question d'éducation aussi. Ça, depuis les années 60, on est dans une révolution des droits individuels. Ce qui prédomine, c'est l'épanouissement personnel, puis au détriment de la société. Bien, peut-être qu'on a oublié l'autre pendant, qui est essentiel aussi dans une société libérale, c'est pas juste « me, myself and I », c'est me, myself and I, and as well others, les autres. On doit aussi considérer que nos actions peuvent porter préjudice aux intérêts d'autrui. Mm-hmm. On n'a peut-être pas suffisamment insisté sur cette autre dimension-là. L'idée de maintenir un équilibre entre les droits individuels, c'est fondamental, mais il y a aussi des responsabilités collectives. Puis ça, ben, je pense que dans une large mesure, ça s'enseigne.
À 100%. Maintenant, le problème, je trouve ça intéressant que tu dises ça, parce que moi, quelque chose qui m'a dérangée pendant les années de pandémie, c'était qu'on renforçait constamment le collectif, puis on nous disait « Non, ce que tu penses qui est bon pour ton corps, tu le sais pas. Pense aux autres. » Fait que si moi je disais, moi je le sens pas du tout ce vaccin-là, on essaie d'avoir un autre enfant, il y a des femmes qui rapportent qui ont des troubles menstruels, ça a l'air à niaiser un petit peu dans les ovaires, ça me tente pas. je vais laisser faire. De toute façon, j'ai eu le COVID, j'ai eu le rhume pendant 2 jours, ne dérange pas, je suis immunisée en principe si je l'ai eu. Les gens me disaient, ben le discours populaire, c'était « tu ne penses pas aux autres en ce moment, tu es une grosse égoïste, fini », puis c'était ça. Là. Donc, c'est comme si là, soudainement, il fallait penser juste au collectif.
Oui.
Puis il y avait quelque chose de très vertueux là-dedans. Mais moi, pour pousser la réflexion plus loin, je trouve que on a vendu ça parce que c'était beau, c'était un beau paquet cadeau. On vous a dit, vous êtes tellement vertueux, vous êtes tellement altruiste en train de penser à la communauté. Mais en fait, c'était hyper égoïste parce que la plupart des gens qui se sont fait vacciner l'ont fait parce qu'ils voulaient pas perdre leur emploi, parce qu'ils voulaient pas se tenir debout contre la tyrannie, parce que c'était vraiment, ça prenait énormément de courage.
Ils voulaient continuer à aller au restaurant, au cinéma. Plusieurs,
c'était parce qu'ils voulaient voyager. La plupart des, du temps, quand je parle à des gens qui se sont fait vacciner, mais on voulait se voyager encore. OK, c'est pas pour moi, ça, c'est pas une bonne raison parce que pendant ce temps-là, il y a des gens il y a des enfants qui sont morts vaccinés, t'sais. Il y en a qui sont tenus parce qu'il y avait vraiment des effets indésirables graves. Puis, bon, peu importe, les gens qui sont fait vacciner, faites ce que vous voulez, c'est votre corps, votre choix, mais ce que je veux dire, c'est que on nous a vendu que c'était altruiste, mais selon moi, c'était extrêmement égoïste de se faire vacciner. C'était par manque de courage.
Oui, oui. Mais l'idée, c'est de maintenir, trouver le juste équilibre entre les intérêts de la collectivité puis les droits individuels. Mais ça, c'est extrêmement difficile. Et on ne peut trouver cet équilibre-là qu'en discutant puis en débattant. C'est par la dialectique qu'on réussit à trouver une synthèse entre une thèse puis une antithèse, pour prendre Hegel ou Marx. Là. C'est comme ça qu'une société peut trouver le juste milieu. Puis ça, encore une fois, j'enseigne ça à mes étudiants, la plupart des philosophes depuis 2500 ans, l'élément fondamental qu'ils ont toujours essayé de rechercher dans une société idéale, Aristote en particulier, c'était le juste milieu. Mm. La conception de la justice, par exemple, toujours trouver le juste milieu. Mm-hmm. Quelle est la sanction qui est proportionnelle au crime qui a été commis? Quelle est la récompense qui est proportionnelle à la contribution de l'individu à la société? Ça, c'est extrêmement difficile à trouver, mais ça implique des débats. Une société qui débat plus, là, pas s'attendre à ce que ça soit une société qui va être capable de trouver le juste équilibre.
Non.
C'est une société qui va sombrer dans un des deux extrêmes.
Ouais.
Puis ça, ben, c'est d'un côté comme de l'autre, c'est pas bon.
Non, c'est ça. Non. En fait, les extrêmes, c'est jamais bon. On voudrait toujours être le plus possible dans l'équilibre.
C'est ça. Donc, pour moi, une société libérale, c'est pas, les droits individuels sont fondamentaux. On ne peut les violer que lorsqu'on n'y a pas d'autres solutions, qu'on puisse les restreindre lorsque c'est réellement nécessaire, qu'il n'y a pas d'autres possibilités de le faire. Mais il y a aussi le pendant collectif qui est aussi fondamental. Et je pense que les individus, par eux-mêmes, devraient être en mesure de se dire « bon ben, si je fais telle chose ou telle chose, et ça va poser des effets négatifs sur les intérêts d'autrui. Si c'est le cas, comment est-ce que je peux moi-même restreindre mon action d'une manière qui est raisonnable, sans avoir à attendre que l'État vienne intervenir et dire « tu sors plus de chez toi ». Parce que ça, c'est le risque. Ça, c'est le risque.
Mm-hmm.
Donc, je pense qu'un peu de façon utopique, c'est comme ça que je verrais une réorganisation des sociétés libérales où on sera en mesure de trouver un meilleur équilibre entre ces deux éléments-là, mais par nous-mêmes.
Ouais.
Donc, imaginez-vous une société où il y a un virus qui circule, les gens sont au courant de la menace, du danger réel, et les gens, par eux-mêmes, se disent « bon, ben, je tousse, je me sens pas très bien, j'ai le nez qui coule, je devais aller voir grand-maman au CHSLD aujourd'hui. » C'est peut-être pas une bonne idée, je vais attendre une journée ou deux, voir comment je me sens, puis c'est peut-être passager, c'est peut-être réellement le virus ou quelque chose de plus grave, peu importe, mais je prendrai pas de chance.
Ouais, ben c'est un peu ça qui est arrivé aussi, parce que ça a amené ça, ça a amené une certaine forme de prise de conscience que avant, moi je me rappelle à toutes les parties de Noël, c'était, je tombais malade tout le temps, puis là c'était les parties, je me suis jamais privée d'aller dans les parties, tu sais, puis malade, puis tout le monde était malade, puis maintenant, j'essaie de... Premièrement, je trouverais ça bien plate de continuer d'être malade, mais on a reporté nos parties parce que là, on était 2-3 malades. On s'est dit, bon, on va attendre, puis on fera ça le 27 à la place. On a tout collectivement choisi, puis pourtant, on est tous des complotistes, fait qu'on devrait tous être des gens égoïstes qui s'en foutent. Mais non, au contraire, on s'est dit, c'est vrai, maintenant, on peut faire attention, c'est pas le fun pour personne. En plus, on a tous des enfants en bas âge, fait que... C'est plus, ça me tente de dormir la nuit, fait j'ai pas envie que mes enfants tombent malades. Moi, je peux vivre, mais les enfants malades, c'est l'enfer. Fait que tu sais, c'est d'amener cette conscience-là. Il y a aussi ma tante qui disait, je trouve ça bien qu'à l'épicerie, avant, on se lave les mains maintenant parce que tout le monde touche aux fruits, tout le monde touche à tout. Bon, ouais, pourquoi pas? Dans le fond, tu sais pas où les gens ont mis leurs mains avant. D'avoir une conscience collective qui change autour de l'hygiène, en fait, aucun problème avec ça. C'est d'aller dans l'extrême.
C'est ça, sans tomber dans les extrêmes où on met du Purel aux 5 minutes. Là.
C'est ça. C'est qu'on a tellement été dans l'extrême. Puis, écoute, je veux aussi te parler. Il y a plein de choses que je veux te parler, mais le temps passe. Je voudrais te parler de ton expérience que tu as vécue cette année avec le cancel culture, pour le dire en anglais, la culture d'annulation. Tu es venu en février à Ottawa et tu devais venir parler.
Témoigner, oui. Offrir un témoignage de 5 minutes.
Devant c'était tout court.
Ah oui, c'était tout court. Devant le comité permanent des affaires étrangères de la Chambre des communes.
Puis on t'a dit bye-bye.
On m'a dit 2 heures avant le début de la réunion que je n'étais plus invité.
Comment ça s'est passé? Est-ce qu'on te l'a annoncé gentiment, poliment au téléphone? Ça a été un email? Comment ça s'est...
Ça a été un courriel pour me dire, malheureusement, on a dû revoir l'horaire de
fait la... Fait que si toi, tu prenais pas tes courriels à toutes les 5 minutes, tu le savais pas, là.
Non, c'est ça, je me serais pointé là-bas, présenter. Puis je sais pas ce qui se serait passé, parce qu'il y avait une autre intervenante sur le panel. Ça, j'ai su ça par la suite. En fait, bon, je commence par le début.
Et pour ceux qui savent pas.
J'avais été invité, c'était dans la nuit de jeudi à vendredi ou de vendredi à samedi, pour venir témoigner à Ottawa le mercredi suivant. Donc, j'avais un délai de 3 ou 4 jours, venir témoigner pour discuter des problèmes de la politique étrangère canadienne, comment elle pourrait être définie dans le monde en émergence de demain.
Okay.
Je ne sais pas qui m'invite. Okay. C'est la greffière du comité qui m'envoie un courriel. Vous êtes invité, on couvre vos dépenses, donc vous êtes invité. La réunion a lieu mercredi, je pense que c'était le 14 février, ou la Saint-Valentin, à 3h30 de l'après-midi. Okay. Êtes-vous disponible? Ben, oui, OK. Donc, je réserve un billet en catastrophe qui coûte une fortune parce que c'est à la dernière minute.
Ouais.
Je me présente, j'arrive à minuit la veille de ma comparution après 30 heures de vol. Je prépare ma comparution à ma chambre d'hôtel le lendemain. Et puis, c'est ça, 2 heures avant le début de la réunion qui était prévue, je reçois un courriel de la greffière me disant « On a dû revoir l'horaire et malheureusement, vous ne pourrez pas témoigner aujourd'hui. » Puis là, je me dis, bon, ben, c'est spécial quand même.
Ouais.
Moi, je repartais le lendemain en fin de journée.
Okay.
Je me dis, ben, écoutez, peut-être que demain, en avant-midi, ma compréhension, c'est, je peux comprendre que des fois, des réunions de comités parlementaires peuvent être annulées parce qu'il y a un vote, un débat d'urgence. Ça peut se produire.
Oui.
Okay. Je le comprends. Si c'est le cas, ben, la réunion, si elle peut être recédulée demain, en avant-midi, je vais toujours être à Ottawa. Je serai disponible pour rencontrer les membres du comité, faire ma présentation. Elle dit, non, malheureusement, ça va être impossible.
C'était pas une question d'horaire.
Là, j'ai compris que c'était pas une question d'horaire. Et là, j'ai dit, écoutez, là, vous m'avez fait voyager un certain nombre d'heures, ça a coûté une fortune. Là, vous me devez au moins une explication. Mm-hmm. Évidemment, la greffière n'a jamais répondu à mon courriel.
Ils ont juste ignoré d'ignorer.
Oui, c'est ça. Ils ont ignoré mon courriel. Et là, c'est par le biais de journalistes qui avaient des contacts au Parlement avec certains partis politiques qu'on a su ce qui s'était réellement passé. Donc, j'avais été invité par le Bloc québécois.
OK.
Par le député qui était membre du comité. Qui m'avait invité. Et puis, on s'est parlé le lendemain, j'ai demandé des explications. Et puis, ce qu'on m'a dit, c'était qu'une autre intervenante, une professeure de l'Université Carleton, de sciences politiques également, lorsqu'elle a vu l'horaire de la comparution, le mercredi matin, elle a vu mon nom sur l'horaire, elle a dit au président du comité, « Je ne veux pas être en présence de cet individu dans la même pièce. »
Je suis en présence de toi en ce moment. Ça va pas bien pour moi, là.
C'est ça.
C'est quelque chose.
C'est quelque chose.
T'es dangereux.
Je suis très dangereux. Ouais. Fait que là, elle dit au président du comité, soit vous annulez sa présentation ou moi, je ne présente pas.
Un ultimatum.
Ouais. Ben, le président du comité, au lieu de dire, ben écoutez, si vous avez un malaise avec cette personne-là, on ne veut pas vous imposer ce malaise-là, donc...
Gère-toi, ma belle!
Désinvitez-vous vous-même, et puis on se reverra à une autre occasion, une autre comparution du comité.
Ce qui aurait été le gros, gros bon
sens. Oui, mais le président du comité a pris la décision de me désinviter.
Comment on a pu en venir là?
Ben, c'est pour cette prof-là, c'est banal. De demander la désinvitation de quelqu'un.
Pour plein de gens, ce serait... Ben déjà, de demander, il faut vraiment que tu sois dans une position que tu ne te prends pas pour du 7-Up flat quand même. Là. Puis que lui accepte, déjà, je trouve ça assez extraordinaire, mais que la population, mettons, qui entendrait, parce que je les entends souvent, je les entends parler dans ma tête, les gens seraient d'accord
Ben oui,
parce que tu es un adorateur de Vladimir Poutine.
Ben oui, c'est normal de me censurer.
C'est ça,
par la suite, je lisais sur les réseaux sociaux des gens qui disaient qu'ils devraient s'estimer heureux de juste avoir été cancellé parce qu'un traître à la nation comme ça, on aurait dû l'arrêter dès qu'il a posé le pied sur le sol canadien. Tu fais, hey boy! Non, mais je pense que c'est un individu qui est clairement qui a besoin d'aide, qui est dans une dérape solide, mais que pour des gens en viennent à penser comme ça dans une société démocratique, là,
on
a un problème. Là. Mm-hmm. Bref, c'est ce qui s'est passé. Mais sur les campus nord-américains, européens, de plus en plus, c'est normal de canceller des individus.
Surtout tout avec la question de l'idéologie, de l'identité de genre, là, des conférences annulées. J'ai reçu dernièrement Dora Mouto puis Marguerite Stern, je ne sais pas si tu as entendu parler du livre Transmania.
Oui, oui.
Puis ils ont été faire une conférence dans une université à Paris. Puis après... ils ont eu des menaces de mort. La police était là, mais ils n'ont pas arrêté les gens qui leur faisaient des menaces de mort. Puis finalement, ça a tellement été compliqué pour elles de faire leur événement parce que les autres faisaient tellement de grabuges puis faisaient tout pour disrupter la conférence. Finalement, ils ont été obligés de l'annuler. Donc, comme elle disait, c'est une forme de censure. On n'a même pas été capable de faire l'événement. Donc, ceux qui voulaient venir entendre ce qu'on avait à dire n'ont pas pu recevoir l'information. On est vraiment... Moi, je le vois beaucoup avec la question de l'idéologie de l'identité de genre. Mm-hmm. Puis... je trouve ça troublant que certaines personnes qui adhèrent à cette idéologie-là ne voient pas à quel point c'est toxique de fermer la boîte comme ça à ceux qui sont pas d'accord.
Mais c'est une logique totalitaire.
Exact.
Ils sont dans une logique totalitaire. Ils veulent pas discuter, ces gens-là. Il y a quelques jours, une entrevue à la première chaîne avec trois intervenants, dont une chroniqueuse du Devoir qui parlait justement de la théorie de genre. Il y avait deux invités, dont le fils d'un ancien premier ministre qui lui dit « Oui, mais écoutez, parce que c'était la journée contre l'homophobie, la transphobie. »
Ils ont une journée puis ils ont un mois.
Oui, mais c'était pour la journée.
Okay, la journée.
Donc, le panel portait sur ce sujet-là, puis elle dit « Il y a beaucoup de recul des droits des membres de la communauté LGBT. »
Un recul!
Elle explique tout ça, puis elle donnait l'exemple des personnes transgenres qui se font refuser des chirurgies, etc. Et le ressentiment d'une certaine partie de la population. Et là, vous avez le fils d'un ancien premier ministre qui dit « Oui, mais écoutez, ce que vous devez comprendre, c'est que les gens ont des questions légitimes. Comment est-il possible, puis après une consultation de 9-10 minutes, une personne qui n'a pas 18 ans puisse se faire prescrire
des
bloqueurs de puberté? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose d'un peu problématique dans une situation comme celle-là? » Il dit, voilà, vous faites le jeu des transphobes. Non, mais...
exactement.
Donc, par cette déclaration-là, puis par son faciès par la suite, on voit que ces individus-là qui se disent « on doit avoir une discussion sur le sujet puis en parler », mais ils ne veulent pas en parler. Ils veulent en parler que si on leur donne raison à 100%. Et si on remet ne serait-ce qu'un petit élément de leur mentalité, de leur idéologie, qu'on la critique, ça devient et automatiquement, c'est de la transphobie. Donc,
oui, c'est ça, oui.
Du complotisme. Mm-hmm. Être pro-Kremlin, être anti-vax, transphobe, anti-vax, extrémiste de droite.
Ouais.
C'est ça, la société québécoise.
Ouais. Mais aux États-Unis aussi,
c'est beaucoup aussi. Mais la société occidentale, de plus en plus, c'est ça.
Ouais.
Donc, c'est ce que je dis aussi depuis quelques semaines. Vous devez réaliser un petit peu que la démocratie, là, beaucoup de gens au Canada vont leur dire, c'est quoi une démocratie? C'est quoi un régime démocratique?
Ouais.
On dit, ben, nous, contrairement à la Russie, par exemple, nos élections sont libres et compétitives. OK, bon, vous avez des élections libres et compétitives, d'accord, ce qui n'est clairement pas le cas en Russie ou en Chine,
okay,
j'en conviens, d'accord.
Ouais.
Mais votre définition de la démocratie, c'est ça, c'est l'élection. C'est une conception
c'est pas après
très...
comment ça s'applique dans,
ben
dans
non,
le quotidien.
C'est, donc, c'est une conception très procédurale.
Ouais,
l'acte là, de faire la file, prendre son petit bulletin de vote, faire une croix, mettre ça dans
son
l'autre.
Devoir de citoyen.
Pour vous, c'est ça la démocratie. Mais ça... qu'est-ce qui se passe entre les scrutins?
Ben,
vous avez
ça,
des
démocratie.
Gens qui sont censurés.
Les minorités ne sont pas écoutées.
Non, automatiquement qualifiées des pires épithètes possibles.
Exact.
On leur fait perdre leur emploi, on les censure, on leur donne une réputation de merde.
Ouais.
C'est ça la démocratie?
La question est vraiment légitime.
Mais c'est ça. Je veux dire, quelle est la différence entre un monde comme celui-là puis une société autoritaire où, dans les faits, les gens n'ont pas le droit d'exprimer leur désaccord? Avec le gouvernement, s'ils le font, ben, ils peuvent se retrouver en prison ou menacés de perdre leur emploi.
Ouais.
Ça, l'autoritarisme soft, tous les autoritarismes, c'est pas comme la Corée du Nord. Là.
C'est ça l'affaire, c'est qu'on nous compare toujours. Mais va en Corée du Nord, c'est pas comparé à François.
C'est un spectrum. L'extrême, c'est Staline, l'Union soviétique, la Corée du Nord.
Oui.
C'est l'extrême. Ce sont des cas exceptionnels.
Oui.
L'immense majorité des régimes autoritaires, les pressions sur les individus, n'y a pas de torture, puis d'arrestation sommaire. Puis... Non, non, c'est un continuum. Ça commence par des mesures très soft. Donc, si une personne commence à s'impliquer dans un mouvement qui est considéré comme un mouvement d'opposition, la personne va recevoir un coup de fil. Dit, voici, bonjour, M. Caron, nous sommes au courant que vous prenez part aux réunions de telle organisation. Vous savez que ce n'est pas une organisation enregistrée, légale, donc vous pourriez avoir des problèmes. Vous, votre conjointe, les nomme le prénom, ainsi que vos enfants, ils nomment les prénoms. Si vous continuez, ne pourront pas travailler, ne pourront jamais devenir fonctionnaires. On se comprend bien, bonne journée, au revoir. That's it, c'est tout. L'immense majorité des individus dans la société autoritaire soft, de ouais, ben là, je suis allé trop loin, je vais me calmer, finito, on retourne à notre vie privée, that's it, c'est tout. Lorsqu'on dit à des gens, ah oui, tu t'exprimes ton point de vue sur telle question, tu es un transphobe, tu es un extrémiste de droite, tu es un agent du Kremlin, complotiste, anti-vax, on va te faire perdre ton emploi, on va te sanctionner, te priver d'une promotion.
C'est quoi la différence?
C'est exactement la même chose.
Ouais, c'est
ça. Mais les élections sont libres et compétitives. Nous, on vit en démocratie.
Mais sont-elles libres et compétitives? Honnêtement, c'est sûr que si on se compare avec la Russie, mais je veux dire, on a vu quand même des cas où il est permis de se questionner sur bien des choses. Je pense juste aux États-Unis avec Trump. Il y a eu quand même... J'ai écouté, moi, les procès, là, on peut les écouter en direct. Là.
Oui, oui.
Puis, parce que c'est pas les nouvelles qui couvraient ça. Et... je trouvais qu'il y avait de la substance quand même. Ça méritait d'ouvrir une enquête, mais ça a été très étouffé. Tout ça, on a traité Trump de tous les noms. Bon, gros, le gros bébé Lala qui fait sa crise parce qu'il a perdu. Il y avait des trucs quand même assez louches. Pas pour rien qu'il est aussi fort dans les intentions de vote en ce moment. C'est comme là, c'est comme les Trumpistes contre-attaquent.
Ouais.
On va voir ce que ça va donner aux élections en novembre, mais quand même, des fois, je me questionne, on est-tu encore vraiment en démocratie? Est-ce qu'il y a des pressions aussi? On nous force à, en ce moment, bon, maintenant, je prends les élections américaines. Les médias vont soutenir Biden, les artistes, Taylor Swift, Lady Gaga, sont toutes rangées derrière Joe Biden. Voir que Taylor Swift, elle trouve que Joe Biden est charismatique et extraordinaire, là, sérieux. Là.
Mais si vous avez un joueur de football qui, lors d'une cérémonie de graduation, parle de la famille traditionnelle, ah ben là, on menace de résilier son contrat.
Exact.
Puis c'est un facho.
Moi, j'ai un ami qui a supporté Trump ouvertement là, ici, là, au Québec, incapable de se trouver une job.
Oui. Donc, il y a cette... quand on parle des élections libres et compétitives au Canada ou aux États-Unis, je pense que ce serait plus au niveau du traitement médiatique de certains candidats. Mm-hmm. Clairement, là, je pense qu'on peut avoir la tête à Papineau là, pour voir là, que les journalistes ont certains chouchous, puis il y en a d'autres qui sont clairement en mission pour les abattre
les détruire.
Politiquement. Là.
Ouais.
Je pense que le véritable problème, il est plutôt là. Là.
Ouais.
Donc, au Canada, est-ce que les votes vont être véritablement comptés en octobre 2025? Je pense que oui, là.
Oui, tout à fait.
Il
n'y
aura pas de bourrage d'urne, comme ça peut être le cas dans la société autoritaire. Mm-hmm. Mais je pense que le problème, c'est au niveau du traitement médiatique, qui n'est clairement pas équitable. Puis là.
Ouais.
On se rend compte que c'est en train de se retourner contre les médias, là.
Parce ben, tant mieux.
Ben oui, c'est ça. Il y a une résistance à part de la population qui réalise « Arrête, tu nous prends pour des cons. »
C'est multifactoriel aussi parce que, tu sais, je pense que les podcasts émergent depuis longtemps aux États-Unis. Ils sont en train de créer un nouveau phénomène où, tu sais, j'écoute beaucoup Joe Rogan, puis il disait l'autre fois avec Tucker Carlson, il disait « On est les mainstream media now. »
Maintenant, oui. Ben
c'est
oui.
Ça. Il y a plus de monde qui écoute Tucker et Joe Rogan et Lex Fridman que... CNN.
Oui, la part des médias traditionnels est en train de chuter. C'est générationnel.
Mm-hmm.
Les gens de moins de 40 ans n'écoutent pas la télévision. Là.
Non.
Puis ça ne changera pas là, au cours des 15-20 prochaines années. Il n'y a pas de raison.
Non.
Donc, les médias traditionnels sont en train de... Ils sont sur leur...
Ils surfent leur dernier souffle.
Ouais. Ils sont sur leur respirateur artificiel. Puis il y a quelqu'un qui est sur le point d'aller tirer à plug, là, comme
c'est
on ça. Dit. Là. Donc,
mais puis c'est correct parce que moi, je trouve qu'ils ont creusé leur propre tombe, puis ça fait tellement longtemps que les médias font plus leur rôle de quatrième pouvoir.
Oui, mais si vous aviez, à la télévision, dans les journaux, peu importe, vous aviez réellement des médias qui étaient le quatrième pouvoir. Tu sais, il y a 50 ans, l'année dernière, on célébrait le 50e anniversaire du scandale du Watergate.
Oui.
C'est arrivé comment, ça? C'est deux journalistes du Washington Post qui ont creusé, qui ont fait une enquête, qui ont publié puis les résultats de leur enquête. Puis ultimement, ça l'a mené à la démission de Richard Nixon.
Mm-hmm.
C'était le quatrième pouvoir. Ils étaient critiques du pouvoir politique.
Mm-hmm.
Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire la même chose? Ben, pas du tout. Puis là, il y a aussi le fait qu'ils sont en déclin. ça les lie financièrement aussi au bien vouloir de l'État.
Ouais.
Ça crée aussi une dynamique, puis on peut réellement voir, comprendre pourquoi ben, ils ont des chouchous, puis ils ont décidé de politiquement s'attaquer, détruire d'autres candidats. Je veux dire, le journalisme aujourd'hui rend plus service à la mainstream, rend plus service à la société comme c'était le cas il y a 50 ans.
Non.
Le journalisme d'aujourd'hui, c'est un intérêt corporatiste. Ils veulent conserver leur place dans l'espace médiatique, puis continuer à pouvoir payer leur hypothèque, puis leur compte mensuel pour leur voiture. Là.
Ouais, ouais.
C'est tout ce qui les intéresse maintenant. La vérité, absolument pas.
Ouais, c'est ça.
Puis vous parlez à des gens, l'expérience avec les médias traditionnels, là, c'est assez fascinant, merci. Là. Parce qu'avant la véritable entrevue, ben, ce que vous avez, c'est que vous avez la pré-entrevue.
Ouais.
Avec un ou une recherchiste qui peut durer pendant une heure de temps, là. La personne vous pose des questions, puis là, OK, prend des notes. Parce que le journaliste qui vous pose la question lors d'une émission de télévision, il a pas lu votre livre, il a pas lu votre article.
Même pas un peu?
Mais non, non, non. C'est le recherchiste ou la recherchiste qui a préparé les...
Stéphane Bureau, il avait lu.
Oui, oui.
Oh, Stéphane,
c'est une exception, ça. Mais pour les autres, là, c'est des grandes lignes, les questions sont préparées d'avance. Mais... À la pré-entrevue, si le ou la recherchée se rend compte que vous allez, lors de la vraie entrevue, vous allez dire des choses qui vont peut-être déplaire, ben là, vous allez recevoir « Ah, écoutez, on a malheureusement dû revoir l'horaire. » Ça devient l'excuse classique. L'horaire, ça ne sera pas possible, malheureusement. Une autre fois, peut-être.
Okay.
C'est comme ça que ça fonctionne.
Toi, dans le fond, tu déranges les horaires de ben du monde.
Oui, ben oui. Puis à un moment donné, tu te fais bouffer beaucoup de temps parce que ces pré-entrevues-là, ça prend du temps. Puis là, au final, ben là... Il n'y aura pas de véritable entrevue. Puis là, tu réalises que, OK, c'est parce que je n'allais pas réellement dire ce que vous vouliez que je dise.
C'est
là.
C'est
donc, on comprend que les médias, ils veulent que vous disiez...
Ils ont un agenda.
Ah, oui, ils ont un agenda. Puis si vous n'êtes pas, apte à leur donner ce qu'ils veulent avoir, ben vous n'aurez pas voix au chapitre. Là. Ils vont trouver quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, va dire ce qu'ils veulent entendre. Donc, une fois qu'on a un petit peu d'informations privilégiées, si on veut. On sait qu'on connaît le fonctionnement des médias traditionnels. Mmh. On peut très rapidement perdre beaucoup de respect pour ces gens-là parce qu'on se rend compte que c'est pas ça l'information.
Mmh.
Encore une fois, l'information, c'est que vous avez quelqu'un qui va dire quelque chose qui dérange, un propos malaisant.
Mmh.
Mais on peut plus avoir de malaise aujourd'hui.
Ça fait mal.
On peut pas imposer ça aux gens.
C'est une violence
psychologique terrible.
Ouais.
Donc, on va faire en sorte que ça ne soit pas le cas. Mm. Donc, on va faire en sorte
On fait plus de blagues sur rien. Puis...
Mais non.
Hey, c'est vraiment... Ça devient beige. Vraiment très, très beige dans notre monde. C'est quand même assez... ça m'inquiète. Il y a quand même plein de choses qui me venaient à l'esprit pendant que je t'écoutais parler. Je regarde la photo d'Oliver Stone derrière toi. J'ai parlé avec lui des médias parce que lui, bon, il est spécialiste de l'affaire de John F. Kennedy, l'assassinat.
Ouais.
Puis on a parlé de ça ensemble. Puis les médias ont été assez complices dans vendre la salade du tireur unique. Donc, ça date pas d'hier qu'il y a quand même une espèce de partisanerie ou en tout cas de camaraderie entre les pouvoirs, les politiques puis les médias qui vont publier certaines histoires pour influencer l'opinion publique. Mais je pense que c'était pas aussi répandu à l'époque. Maintenant, c'est rendu très, très rare qu'on voit un journaliste émerger comme un Thomas Gerbet qui va sortir une histoire...
Très exceptionnel, ouais.
Je le nomme parce qu'il est exceptionnel. Mmh. Mais Thomas a refusé de venir à mon podcast.
Ben oui, parce que...
Mais c'est ça. Donc, c'est symptomatique du monde dans lequel on vit. J'étais super dérangée qu'ils me disent non. J'ai insisté. Il a dû me trouver gossante, mais je me disais... Je veux parler de tous les sujets qu'il a dénoncés. Il y en a plusieurs, là, puis c'est toutes des affaires super importantes. Je dis, mais qui d'autre pour en parler si c'est pas toi, Thomas? Puis il dit, je peux pas donner mon opinion, mais je veux pas ton opinion. Je veux que tu nous parles des faits que tu as débusqués, des choses que tu connais.
Mais on comprend que c'est...
Je peux pas me toucher à une complotiste.
Voilà, la réputation, maintenant, fait foi de tout.
Exact.
Si on est catégorisé comme une personne toxique, pour différentes raisons, c'est fini, là.
Non, c'est sûr que c'est
terminé.
Ça. Il a été poli de me dire « je peux pas donner mon opinion, mais j'ai fait, je sais très bien. »
Il y a un problème d'horaire, c'est plus compatible.
C'est ça, exactement.
Donc, oui, mais c'est ça qu'on doit comprendre entre les lignes, là.
Mm.
Donc, je veux dire, moi, encore une fois, la fameuse entrevue où j'avais expliqué l'héritage, le lien entre le nazisme et le nationalisme ukrainien, ça, là, c'était, là, se mettre, là, les deux mains dans le nid de guêpe, là.
Oh, oui,
c'était
le goût, là,
juste avoir dit ça...
Savais-tu que tu t'en allais dans le nid de guêpe en faisant ça?
Ouf. Oui, mais pour moi, t'sais, l'esprit scientifique, là, on pense pas à ces considérations-là.
Ouais.
Tu me poses une question, c'est bon, ben, au risque de déplaire, ben, c'est comme avec mes étudiants, lorsqu'ils m'écrivent un travail de tout croche, je vais pas leur donner 90% juste pour leur faire plaisir. Je vais leur dire, ben, ton travail, c'est un torchon. puis je vais t'expliquer pourquoi.
Ouais.
Je t'explique toujours pourquoi. Mm-hmm. J'essaie de le faire de la façon la plus polie possible. Mais j'essaie d'être honnête avec moi-même, avec les autres. Puis à un moment donné, si l'honnêteté nous mène à tout ça, ça sera le prix à payer, mais je commence à être trop vieux de toute façon pour changer.
C'est si vieux que ça, quand
pas
même.
Si vieux que ça, mais j'ai pas l'intention de changer puis essayer de plaire à tout le monde à tout prix. Là.
Non,
ça vaut pas la peine. Là.
Mais tu es dans une position un peu plus confortable du fait que tu n'habites plus au Québec aussi. J'imagine que tu as...
Aussi. Puis j'ai pas de risque de perdre mon emploi comme Patrick Provost à cause de ça. En fait, l'histoire de la cancellation à Ottawa, dès mon retour à Astana, j'ai pris rendez-vous avec des gens de l'administration pour leur expliquer ce qui s'était passé.
À ton université?
À mon université. J'ai dit, écoutez, okay. Je vais vous mettre au courant ce qui s'est passé. Parce que si ça sort dans les médias, inévitablement, le nom de l'université va être associé à mon nom. Et puis, sachez d'avance qu'il y a des gens qui peuvent dire que c'est un agent du Kremlin qui est payé par le FSB, etc., etc. Non, mais on vit dans un monde comme ça. Je préfère vous prévenir d'avance.
Ouais.
Puis la personne, en particulier de l'administration, me dit « Merci de nous en parler. Personnellement, je trouve ça dégueulasse, ce qui s'est passé. » On va te défendre si c'est le cas, parce qu'on te rappelle qu'on a une charte qui défend la liberté académique, et puis une chose comme ça, ça serait jamais produit chez nous.
Ça me fait de la peine quand même d'entendre.
J'ai dit, j'ai cette sécurité-là. Maintenant, si j'étais dans les culottes d'un type comme Patrick Provost, où j'aurais mon doyen qui me prendrait par le bras dans un corridor pour me dire, écoute Jean-François, ton intervention d'hier à telle station de radio lorsque t'as parlé du nationalisme ukrainien, t'es pas très habile, on a reçu des coups de fil, il y a des pressions, puis
on a une plainte,
puis on risque d'avoir des plaintes, puis écoute, tu veux pas t'embarquer là-dedans.
T'aurais-tu...
Ah ben, c'est...
Auto-censure, tu penses? T'as pas l'air d'être le genre de gars qui se ferme la trappe quand même?
Non, mais quand on a des enfants de famille, inévitablement, on se dit « ouais, ben... ouais, »
Mais respect à Patrick parce qu'il y a une grosse famille.
Oui, il peut avoir des conséquences. Puis je veux dire, oui, c'est facile de faire preuve de courage peut-être dans une situation comme la mienne, où j'ai pas à craindre de perdre mon emploi, comme ça peut être le cas avec Patrick Provost. Mm-hmm. J'ai pas à craindre peut-être à la file d'attente à l'épicerie de me faire cracher dessus par quelqu'un qui m'aurait entendu à la télévision, à la radio, qui ne serait pas d'accord avec moi.
Ouais.
Donc, j'ai une immunité un peu, d'une certaine façon, qui me permet peut-être d'être davantage libre.
Ouais. Et plus
même
courageux.
Même si je vis dans une société qui, encore une fois, pas cataloguée comme une société libre et démocratique, est-ce que ça serait la même chose si j'habitais au Québec? Pour être honnête, je ne sais pas.
Ouais,
j'aimerais pouvoir dire, ben oui, c'est sûr. Mais tu sais, c'est un peu l'idée, lorsque tous les gens aujourd'hui vont vous dire, ah, moi, si j'avais été en Allemagne dans les années 30, là, moi, j'aurais caché des Juifs là, dans mon sous-sol.
Mm. Ben non.
Probablement, les personnes qui disaient ça, ça a probablement été les premières personnes à dénoncer Anne Frank, là.
Oui.
Qui était planqué là, derrière un mur.
En fait, penser qu'on est vertueux, mais en fait, dans la réalité... En tout cas, moi, je suis quand même fière de me dire que je me suis prouvée à moi-même que j'aurais planqué des Juifs parce que j'ai résisté. Puis en plus, j'ai pris parole, j'ai été à Ottawa, on a vécu plein d'affaires, on a perdu des emplois, on a perdu notre garderie, tout ça parce que je prenais position publique. Fait que pour moi, tu sais, je poursuis Google, YouTube.
Oui.
On peut dire que je suis convaincue quand je dis j'aurais eu le courage. Je le sais, je l'ai parce que ça prend du courage. Puis on a des jeunes enfants. Fait que, tu sais, on a le curriculum. Mais je suis pas en train de dire que je juge ceux qui sont pas comme ça parce que je suis consciente que j'ai beaucoup de fougue. Puis je suis une personne, j'ai toujours été comme ça. T'sais, j'ai toujours été celle qui allait au front. Mettons, c'est dans ma classe. Puis on trouvait que le prof avait fait de quoi de pas correct. On s'entendait tous à récréer, là, qu'on allait y aller en groupe. Là, j'allais parler. Puis. Ah, je suis seule. T'sais, j'étais tout le temps celle qui parlait au nom de tous ceux qui... Ah, vas-y, hello, toi, t'es bonne.
Fait que, non, c'est un tempérament, c'est une question de caractère.
Exact.
Puis, tant aussi longtemps qu'on n'est pas confronté à une situation qui exige de nous de faire preuve de courage, ça reste théorique.
Ben oui,
faut en être conscient aussi, là.
C'est ça.
Donc, mais tu sais, c'est ce qu'on appelle en anglais le « risk threshold ». Est différent pour chaque personne.
Ouais.
La tolérance au risque est très... Ça dépend de notre situation socio-économique. Il y a certaines personnes, le risque, il n'y a absolument rien qui leur fait peur.
Ouais.
D'autres personnes... Par exemple, dans une manifestation, dans un État autoritaire, c'est ces personnes-là qui vont initier le mouvement. Donc, vous avez les autres personnes qui, eux, ont un niveau de tolérance au risque qui n'est pas aussi élevé que les autres. Eux, tout ce qu'ils ont besoin de voir, c'est 100 personnes qui manifestent pour se joindre à la manifestation.
Ah,
okay. Là, vous allez avoir 1000 personnes qui vont manifester. Là, vous allez voir les autres personnes qui, eux, pour sortir de leur torpeur, vont avoir besoin de voir 1000 personnes dans une manifestation pour s'y joindre. Là, vous allez avoir 10 000 personnes. Puis là, c'est comme ça que ça...
C'est complexe, hein? Mais en fait, c'est intéressant parce que...
Sur le plan sociologique, c'est le niveau de tolérance au risque fonctionne comme ça. Puis notre niveau est différent et évolue en fonction de notre âge, de notre situation sociale ou économique. Donc,
mais les enjeux ne sont pas les mêmes non plus, comme tu disais
exactement,
tantôt.
Exactement, c'est ça. Ouais. Est-ce qu'on met notre vie en danger ou non? Est-ce que c'est notre emploi qu'on met en danger ou il n'y a absolument aucun risque?
Ouais.
Tu sais, aller à une manifestation de Greta Thunberg, là, pas de risque, là.
Il n'y en a pas. C'est drôle, c'est parce que les gens qui sont convaincus qu'ils font de l'activisme, alors que
ça exige aucun courage.
Il n'y a pas de résistance.
Non, ça exige aucun courage, il n'y a pas de conséquences possibles à participer à une manifestation comme celle-là.
Non, tu fais juste être vertueux.
Ah oui, c'est ça.
Par contre, par exemple,
une femme en Iran qui va manifester sans voile sur la tête, là.
Oh boy, oui, courage, oui.
C'est autre chose.
C'est autre chose,
hein?
Oui. Voilà. En tout cas, super intéressant. Merci Jean-François de t'être manifesté. Je m'en allais t'écrire, puis tu m'as écrit avant. C'est vraiment le fun. Contente de t'avoir rencontré en personne aussi.
Oui,
continue de prendre la parole comme tu le fais. Est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce que tu as un blog? Est-ce que tu as des publications? Je sais que tu as tes livres, là.
Oui, j'ai les livres, mais sur X, on peut suivre.
J'ai présent sur X. Hein,
oui, assez présent. JFR Caron. Puis avec le poste de Yann et Frank aussi sur YouTube. Habituellement, à chaque semaine, le mercredi soir, un petit billet de 5 minutes environ.
Okay.
Et puis, une fois par mois, aux 6 semaines, avec François, on fait aussi une discussion autour d'un ouvrage d'un philosophe politique connu. On en a déjà fait 4 jusqu'à présent.
C'est une chaîne YouTube?
C'est une chaîne YouTube,
oui. Peux-tu sortir le nom?
Yann et Frank.
Aussi simple que ça.
Aussi simple que ça. Okay. Ils sont faciles à trouver. C'est très, très, très présent.
C'est québécois?
Oui, c'est québécois.
OK,
oui.
Je ne connaissais pas.
Puis, donc, on a fait Machiavel. On a discuté pendant une trentaine de minutes de Machiavel, de Socrate. Le dernier qu'on a fait, c'était Épicure.
Ah, intéressant.
Donc, on essaie de faire ça à chaque mois ou 6 semaines. On essaie de rendre accessible la philosophie politique.
Mm-hmm.
Puis surtout, même si des ouvrages ont été écrits il y a 2000 ans, montrer en quoi ils sont toujours pertinents aujourd'hui. Mm-hmm. Donc, on fait ça aussi une fois de temps en temps. Puis à chaque semaine, des billets sur des sujets d'actualité.
Un peu chaud, parfois.
Toujours.
Toujours.
Sinon, ça ne serait pas intéressant.
Exact. Merci Jean-François.
Merci.
Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, mettez un petit pouce par en haut, un commentaire ou partagez-la. C'est une excellente façon de m'aider à rejoindre un maximum de gens. Si ce n'est pas déjà fait, suivez-moi sur toutes mes plateformes, YouTube, Facebook, Instagram et X, là où la censure ne sévit pas. Et en terminant, si vous avez envie de me supporter directement et voir davantage de contenu comme celui que vous venez juste de regarder, j'accepte les dons mensuels ou uniques par Interac à l'adresse helloveutsavoir@gmail.com, mot de passe vérité sans accent, V-E-R-I-T-E. Merci!